Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en France en direct, 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir. Jonathan McCarthy.
Salut Nico.
Bonsoir Kevin Diaz.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Un gros programme comme tous les samedis soirs, débrief global, total de la soirée de Ligue 1, avec beaucoup de choses à raconter. Effectivement, la claque monégasque à domicile, Monaco rattrapé par ses maux, malgré le départ de Jardim, balayé 3-1 par Strasbourg. La très belle opération de Montpellier, ce fut dur, mais c'est bon, Montpellier 4e de Ligue 1, ce soir vainqueur de Dijon. Le soulagement stéphanois, enfin une victoire dure aussi face à Nîmes, 2-1, doublé de Cazerie, on en parle, appelez-nous supporters stéphanois. Les drôles dames au programme également, la défaite du Barça inquiétante avec un Griezmann transparent. Fred Hermel sera avec nous. Le Bayern étincelant qui recolle presque derrière le leader, le RB Leipzig, et le Napoli Juve demain. Et également le Napoli qui est messieurs à 27 points de la Juve. C'est une catastrophe.
Une catastrophe, leur saison.
On en parlera. Mais il y a une recrue annoncée hier au Napoli. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie de l'after avec nos trois drôles de dames. Mais d'abord le rugby, messieurs, rapidement avant vos trois points. Clermont, Stade Français, Julien Tellier.
57 minutes de jeu à Marcel Michelin. Les Clermontois qui étaient menés depuis le début de la partie viennent d'égaliser. Transformation réussie par Greg Ledlow, le demi-mêlée remplaçant écossais de la SM Clermont Auvergne, qui transforme à l'instant l'essai signé McIntyre. Les remplaçants qui pour l'instant font la différence pour les Clermontois qui reviennent à 19 partout sur leur pelouse face au Stade Français. 57e, 19 pour Clermont, 19 pour Paris.
Afterien, vous nous écoutez, vous connaissez le principe, appelez-nous au 32-16, écrivez-nous sur le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio, vos messages que vous pouvez adresser à Jonathan et à Kevin, bien sûr.
Moi aussi.
Et à moi aussi, mais moi je suis là pour passer les plats, comme on dit. Je réponds pas aux questions, moi.
Donc,
moi
star,
je mets en valeur, messieurs.
C'est toi la star, mon pote.
C'est le paillette de l'after, le passeur décisif.
Ouais, mais moi je marque pas, en fait.
Non.
Moi je vous mets en valeur, je suis que passeur, t'as raison.
C'est ta cabine qui est sur les trucs des podcasts, non? Donc c'est toi la star, mon pote.
Ah ouais, je suis pas au courant de ça. Ok, messieurs, l'essentiel, c'est les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Allez, Kevin.
Bah moi en premier point j'ai quand même dit Monaco. Quelle déception ce soir. Pas de jeu, pas de rythme, pas d'envie. Il n'y avait vraiment pas grand chose à Louis II. Il n'y avait pas beaucoup de public non plus. Montpellier en deux, parce que Montpellier qui, sans être flamboyant, faut bien le dire, continue quand même sa marche en avant. Et en trois, Saint-Té, ouf, parce que ça a quand même été très difficile après une bonne première mi-temps et un très bon Cazerie en deuxième mi-temps. Les Verts se sont fait très peur.
Jonathan.
Le premier point, obligatoirement, comme Kevin, c'est l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a proposé vraiment de la bouillie ce soir, à l'image un petit peu de ce qui se passe depuis que Moreno a pris l'équipe. Alors certes, il y a eu des 2-3 choses positives, mais quand tu regardes la composition tactique de l'équipe, et je pense qu'on va y revenir, c'est un petit peu compliqué de comprendre. Le deuxième point, c'est je pense que Metz est vraiment sur la bonne voie pour se sauver. Avec quand t'as un buteur comme Diallo, ça fait toute la différence par rapport aux autres équipes qui jouent le maintien. Et le troisième point, bah, c'est un petit coup de cœur pour Andy Delors, parce que c'est vraiment un de mes joueurs favoris de Ligue 1. Il marque encore ce soir. Il en est à 8 ou 9 buts, je crois. C'est vraiment voilà, un attaquant. C'est certainement pas le meilleur neuf de notre Ligue 1, mais en tout cas, c'est mon préféré, donc chapeau à lui.
Messieurs, je vous rappelle tous les résultats très rapidement. Victoire de Brest face à Amiens 2-1. Monaco battu par Strasbourg 3-1. Saint-Té qui bat Nîmes 2-1. Metz qui gagne important à Reims 1-0. Habib Diallo, 11e but pour Habib Diallo cette saison. Montpellier qui bat Dijon 2-1. Sur le classement, je vous le disais, très belle opération pour Montpellier qui remonte à la 4e place de Ligue 1. Également pour Strasbourg 7e. Metz s'éloigne un tout petit peu de la zone rouge. 16e avec 23 points. 5 points d'avance sur Amiens. Désormais, premier relégat, en tout cas barragiste. J'accueille Fabien au 32-16, un supporter heureux, peu remisé sur Strasbourg ce soir. Strasbourg s'est imposé 3-1 à Monaco. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Et bienvenue à l'after. T'es pas seul, on a reçu des messages également de JB Brébois qui jubile après la victoire strasbourgeoise. Vas-y.
Eh ben écoutez, que dire, on avait le pire bilan à l'extérieur.
C'est vrai.
Donc c'est une très belle victoire ce soir, avec en plus, je pense, la manière, malgré une infirmerie assez remplie. Donc victoire qui fait beaucoup de bien avant deux gros matchs, hein, Marseille mercredi et puis Lille la semaine prochaine.
Marseille en coupe, hein. Ouais.
Oui, c'est ça, en coupe de France. Donc ouais, une victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. On remonte à la 7e place et seulement deuxième victoire à l'extérieur. Donc oui, vraiment satisfait de la manière.
Il y a une chose qui fait la différence par rapport au début de saison catastrophique de Strasbourg, c'est que là, tu vois, pour première mi-temps, ok, Monaco a plus ou moins le contrôle sur le jeu. Strasbourg subit un petit peu. Pour moi, l'ouverture du score, elle vient un petit peu contre le cours de la logique. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'en seconde mi-temps, t'as senti que les gars, ils étaient vraiment, vraiment là physiquement. Et on avait beaucoup dit que le fait d'avoir repris si tôt, avec cette épopée en qualification pour l'Europa League, ça les avait un petit peu flingués. C'était une équipe qui donnait l'impression d'être vraiment sur les rotules. Et là, tu vois qu'ils ont fait du frais et qui sont capables, tu vois, de passer la seconde quand il faut et dans à partir de la 60e. Alors que d'habitude, t'avais l'impression que ton équipe elle plongeait à partir de ce moment-là.
Ouais, ben c'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Je pense qu'en première mi-temps, effectivement, on était en dessous de peu. Et je pense que peu à peu, on a commencé à reprendre le contrôle sur le match. Il y avait quelques combinaisons et mine de rien, enfin, les offensives monégasques étaient rares et peu convaincantes. Wissam Ben Yedder, on l'a vraiment pas vu.
Il était bien pris.
Exactement. Après, bon, je sais qu'ils ont quelques absents aussi, mais bon, en tout cas, pour revenir sur Strasbourg, solide victoire qui va faire vraiment.
Ouais, et puis il y a eu un phénomène aussi quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez, comme souvent quand même, joué, commencé le match très intelligemment, c'est-à-dire bien en place défensivement. Hein, c'est pas voilà, et on peut le dire, vous êtes pas beaucoup sorti. Et par contre, petit à petit, en fin de première mi-temps et au fur et à mesure de ce match et bien sûr surtout en deuxième partie de rencontre, et ben vous avez pris confiance. On a quand même retrouvé un bon Ajorque qui est quand même à la finition de ce but, il faut y être parce qu'il plonge là dans cette surface. Bon, on en reparlera parce que la défense de Monaco, elle était restée à la maison, mais voilà, Ajorque qui plonge, un bon centre de Zoé et en deuxième mi-temps quand même un Thomasson vraiment Thomasson intéressant dans son but. Fort, ouais. Bel enchaînement, contrôle, frappe derrière, un Mitrovic qui s'impose telle une tour là dans cette défense monégasque
trop statique.
Donc franchement il y a eu pas mal de bonnes choses. Vous avez bien maîtrisé, vous êtes fait un tout petit peu peur parce qu'il y a quand même cette barre transversale de Glick aussi. Vous auriez pu vivre une fin de match un peu plus compliquée, mais au final une victoire méritée.
Ouais, tout à fait, victoire méritée. Alors juste avant de finir, j'aimerais juste si vous le permettez passer une dédicace à mon pote qui est avec moi, un copain de supporter rennais qui est venu de Toulouse me rendre visite en Alsace.
Attends, c'est compliqué. Alors, un copain rennais qui est venu de Toulouse pour venir te voir en Alsace.
Un supporter rennais qui est venu de Toulouse me voir pour le week-end.
Alors, qui habite à Toulouse et qui habite
ensemble.
Ouais, c'est incroyable. Vas-y.
Et en fait, on a vécu un petit moment Ligue 1, vu que tous les deux, on est allé à Fribourg aujourd'hui voir un match, le match de Bundesliga. Ouais. Et donc, on a assisté au 6e de Bundesliga qui recevait le dernier. Et alors, on a acheté les écharpes, tout ce qu'il fallait.
Génial. J'adore.
Et puis on a vu une défaite de Fribourg à domicile 2-0, donc un scénario Ligue 1 bien en règle quoi. On est reparti cul nu quoi.
J'adore. Contre Paderborn hein, et pas comment il appelait ça coach Corbis. C'est mon paperboard, il appelle, voilà. Paperboard. Moi, j'aime bien ce genre de match improbable, tu sais, des stades un peu décalés, à l'étranger, c'est génial.
T'as vu quand même un beau match ou pas, footballistiquement?
Première mi-temps, pas terrible. On était un peu sur notre faim. Et deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'intensité, même si Paderborn, au final, a marqué très tôt en deuxième période. Mais cependant, ils se sont retrouvés à 10. Et finalement, ils arrivent à doubler la mise. Interpellé, c'était surtout une ambiance assez intéressante. Les gens se lèvent, tout le monde est concerné. C'était vraiment agréable.
C'est intéressant. T'as raison de toujours avoir ce qui se fait à l'étranger.
Je le rappelle, c'est pas qu'en Ligue 1 que le dernier peut gagner chez le 6e.
Ouais. Alors on va se faire un débrief de 2 minutes sur Fribourg Paderborn, les gars. Avec un but de Antwi Adjedj et de Sabiri sur penalty pour Paderborn, 18e de Bundesliga parce qu'il n'y en a que 18 équipes en Bundesliga. Merci Fabien.
Une bonne soirée.
Toi aussi, tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Merci.
De Monaco et la claque monégasque, les sensations jardimesques retrouvées à Monaco ce soir. Angers, qu'est-ce que je raconte ? Strasbourg, 4 victoires sur 5 derniers matchs en Ligue 1.
C'est surprenant.
7 victoires sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Vous vous rappelez en début de saison, quand ils ont 2 points sur 15 possibles qui sont derniers de Ligue 1 et que tu as le coach strasbourgeois
Thierry Loret
qui dit ne vous inquiétez pas, pas de panique, on va revenir. 7e de Ligue 1 ce soir.
Quand tu regardes cet effet.
7e de Ligue 1.
Et ils ont quand même un bel effectif. Moi, je regardais à l'instant. Donc, bon, t'as les titulaires avec quand même de très bons joueurs de Ligue 1, notamment une défense quand même. Carol, Koné, bon, même si c'est blessé, j'espère que ce sera pas trop grave. Mitrovic et Kenny Lala avec Matsels dans les buts. T'as quand même une défense assez solide. Et sur le banc, aujourd'hui, t'avais quand même des joueurs comme Bellegarde, des joueurs comme Madji Douaris, qui peut apporter
c'est
quand
pas,
même
c'est
en Ligue 1.
Pas tant les individualités qui sont importantes dans cette équipe. C'est en fait, cette équipe, elle marche quand les joueurs, en fait, ils sont tous, on va dire, allez, à 100% physiquement, parce que le Thierry Laurier leur demande des choses qui sont quand même très exigeantes. Donc avec Ludo Aubragnac, ce qu'on disait, on était persuadés que Toulouse, oh là là, le lapsus, que Strasbourg, on les reverrait en seconde partie de saison. Ils étaient rincés, ils ont pris fin juillet.
Oui, mais il y a aussi de la qualité. Ils jouaient 6 matchs au cœur de l'été.
Ils ont pris fin juillet, et à chaque fois tu te disais, oui, effectivement, t'as raison, il y a de la qualité, mais tout ce qui a fait la réussite de Strasbourg la saison précédente, à savoir une équipe qui était vraiment collectivement très au point, des joueurs qui étaient des morts de faim, qui allaient, qui se projetaient à 1000 à l'heure, qui faisaient les efforts défensifs à 1000 à l'heure aussi, on avait du mal à les retrouver, mais somme toute c'était assez logique et on était persuadé qu'on les retrouverait là, au mois de janvier.
C'est mieux que logique.
Pour moi, ça me surprend pas.
Septième de Ligue 1, on a un Strasbourg qui est en train de s'installer tranquillement en Ligue 1, en train de progresser.
Profite de deux choses.
Réellement, oui.
Profite aussi du fait que le niveau moyen de la Ligue 1 cette année est très faible.
Non, mais quand même, c'est quand même un gros travail. Aussi. C'est un gros travail parce que Jonathan, tu sais, c'est très difficile quand t'es coach, quand t'es entraîneur.
Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas un contrat, je viens de te dire qu'au contraire, ce qui faisait la clé de Strasbourg, c'était que l'entraîneur mettait en place, tu vois, le projet collectif Strasbourg
joueur. T'as l'air de dire que tu savais que ça allait être normal. Non, moi je trouve quand même, tu sais, il y a beaucoup de clubs où on aurait paniqué, et là-bas, ce club bien géré par Keller notamment, fait que, voilà, on panique pas, on sait qu'on a vécu.
Il est structuré, il a progressé, de grandir tranquillement, ça Montpellier il y a 7-8 saisons.
Non, mais tu sais, il y a des clubs où t'aurais vite paniqué.
Ouais, mais Kevin, on sait que ce club, il est géré intelligemment, de toute manière. Donc, à un moment, c'était au mois de novembre, je sais pas si tu te rappelles, Nico, il y a eu une espèce de rumeur qui circulait comme quoi s'il perdait, je sais plus quel match, il aurait sauté.
Oui, alors.
Et c'était que des rumeurs, personne n'y croyait, quoi, parce que ce club-là semble être quand même géré d'une manière un petit peu familiale, mais à la fois très professionnelle. Donc ça, c'est intéressant pour eux, et c'est tout à fait logique qu'au vu de leur effectif, au vu de la qualité de leur entraîneur, même si c'est un gros ronchon qui fait la tronche tout le temps, c'est quand même un putain de bon
entraîneur. Ouais, il est drôle.
C'est normal, c'est pour moi, c'est normal qu'ils reprennent, c'est tout.
Un grand caractère. 30 points en 21 journées pour Strasbourg, hein, qui va tranquillement se maintenir et regarder peut-être plus haut, ou en tout cas essayer de faire un top 10 avant les droits TV, le jackpot, messieurs, dames, à l'issue de la saison prochaine, de cette saison. Hein.
Ils vont l'avoir, le top 10, je pense.
Ouais, top 10, pourquoi pas. J'accueille Anit. Annie ou Anit ? Bonsoir.
Bonsoir.
Comment on dit ?
Bonsoir à tous.
Anit, oui, ou Annie ?
Anit, c'est bien ça.
Anit, c'est ça. Supporter de l'AS Monaco. Alors voilà, Monaco qui retombe dans ses travers. Bon, c'était pas forcément beaucoup mieux pour l'instant sous Robert Moreno après Jardim. Mais là, cette défaite 3-1, Monaco qui était mené 3-0 également avant la réduction de l'écart de Jovetic. C'est dur, c'est logique.
C'est logique. Je réagis un peu à chaud, mais c'est vrai que c'est extrêmement logique, c'est extrêmement décevant. Je parle pour l'ensemble des supporters monégasques. On restait franchement sur une bonne dynamique. Il y avait ce 3-3 au Parc des Princes. Il y avait cette victoire en Coupe de France. Et on espérait beaucoup plus là ce soir. Et on est extrêmement déçus. Extrêmement déçus au niveau de l'impact, au niveau de l'envie, que ce soit au niveau de la ce qui était proposé ce soir, c'était pas forcément du tout ce qu'on attendait, et on est forcément déçus.
Ouais. Ben en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que, alors, Moreno, on le connaît pas, on sait pas ce que ça vaut. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'il est arrivé avec en tête un système, le 4-3-3, et que là, il se rend pas compte que on n'est pas en début de saison, qu'il y a quand même une petite urgence. T'arrives au mois de janvier avec un entraîneur qui est renvoyé dans une situation un peu rocambolesque. Il y a quand même des meubles à sauver, et j'ai l'impression qu'il fait passer ses idées avant le bon sens. Le bon sens, pour moi, il est symbolisé par deux joueurs. Le premier, les deux joueurs sont Fabregas et Slimani. On sait que cette équipe, elle fonctionnait bien avec ce duo Slimani Ben Yedder. Comme il veut jouer en 4-3-3, il dit, ça t'écarte Slimani.
Ouais, mais je comprends pas, parce que son système à la base, il a écrit un livre sur le 4-4-2,
il joue en 4-3-3.
Ouais. T'as raison, Kine, c'est encore plus bizarre. Et moi, le deuxième joueur qui est symbole de ça, c'est Fabregas. Parce que Fabregas, t'as l'impression qu'il le met parce qu'il est espagnol et qu'il va donner les consignes sur le terrain. Mais son milieu de terrain n'a ni queue ni tête. Bakayoko, voilà. Depuis quand Bakayoko, c'est une sentinelle qui peut jouer devant la défense? Il n'a pas l'intelligence de jeu, il n'a pas les qualités. C'est un bon joueur quand il joue box-to-box, qui peut se projeter. À Monaco, il était très bon avec Fabinho qui lui assurait la sécurité défensive. Mais là, mettre un milieu à 3 avec Bakayoko, relayeur, Fabregas, devant la défense, Fabregas, relayeur.
T'as raison.
C'est très bizarre.
Je veux qu'on resserre sur. On a une info transfert à Monaco également, vous donner dans un instant. À Bordelais va rejoindre l'AS Monaco. Pour 20 millions d'euros, c'est Aurélien Tchouaméni. On confirme ce soir, info RMC Sport. Slimani, les gars.
Mais Slimani.
Attends, je le finis. Je resitue quand même l'histoire. Il arrive cet été. D'accord, international algérien, on le connaît. Il joue en Angleterre, joueur expérimenté. Il dépasse ses espérances, d'accord. Un joueur à relancer. 8 buts 8 passes, 7 buts cette saison en jouant grosso modo 15 matchs en Ligue 1. Ça veut dire qu'il est 15 fois décisif en 15 matchs joués. Il est sur une base, s'il continue comme ça, et avec son immense complicité avec Ben Yedder, ce qui n'a pas de prix encore une fois. Je rappelle toujours ce que dit Denouex. Denouex disait un joueur A une valeur, un joueur B une valeur, mais la relation entre les deux, le joueur A et le joueur B n'a pas de valeur. C'était inestimable. Aujourd'hui, on a un coach qui arrive et un Jardim qui avait déjà commencé à amorcer à Messemani sur le banc ou sur le côté gauche. Avec un joueur qui veut partir et qui va sûrement partir cet hiver. C'est incompréhensible.
Comment tu peux laisser Slimani sur le banc? Alors, ils disent qu'il est blessé aujourd'hui. Mais comment, sur les derniers matchs, il n'a pas fait jouer Slimani, sachant que c'était vraiment le joueur qui arrivait le mieux à faire briller Ben Yedder. Ces deux joueurs qui sont, comme tu parlais de Denex, c'est la fameuse complémentarité des deux attaquants.
C'est inestimable.
T'as un entraîneur qui arrive, qui est Moreno, qui a écrit un livre sur le 4-4-2, qui a le duo d'attaquants qui, après Neymar Mbappé, qui est quand même le
attends,
plus prolifique.
Il a même mieux. Il a même mieux. Parce qu'en plus, si jamais il y en a un des deux qui se pète, t'as Jovetic qui joue, qui est fait pour jouer dans le cinéma de
droite. Mais bien sûr. Donc, t'as tout ce qu'il faut. Il a écrit un livre sur le 4-4-2. Il a une des paires d'attaquants qui marche le mieux en Ligue 1. Ouais. En France. Et il arrive et il continue un 4-3-3.
C'est quoi l'idée? Il s'entête? Il veut,
alors, est-ce que
marquer de son empreinte, son arrivée? Voilà.
Est-ce qu'il y a
faire
pas,
différent?
Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome? Je ne le connais pas, Moreno. Je ne juge pas, mais j'émets une hypothèse. Pas, ouais. Il n'y a pas ce syndrome de l'entraîneur qui arrive et qui veut absolument apporter sa patte et qui avait déjà décidé que Slimani, ses qualités techniques, qui sont peut-être pas au niveau qu'un entraîneur espagnol espère, tu vois ce que je veux dire?
Non, il est au-dessus du niveau, oui, mais, de la moyenne.
Oui, hein. Mais, bon, il est bon, hein.
Oui, il est bon techniquement, mais il a une technique. Il n'a pas la technique des Espagnols. Il a une technique un peu rustre, tu vois. Il fait des trucs un peu imprévisibles.
Je trouve dur avec Rus parce que je l'ai vu.
Une
touche de balle en déviation, faire des passes des à.
C'est pas une critique
Benyedder
envers Slimani. Je tente une explication de savoir pourquoi Moreno ne se passe d'un des joueurs les plus prolifiques. Donc voilà. J'espère que c'est pas ce joueur d'entraîneur qui veut absolument apporter sa patte, quitte à détruire ce qui a déjà marqué en première partie de saison.
Et la deuxième chose, moi, qui me choque, c'est encore une fois, c'est ce milieu de terrain. Mais d'où tu peux avoir l'idée de mettre Chimou et Bakayoko devant la défense?
Il faut arrêter avec Fabregas aussi. C'est fou.
Non, mais c'est ridicule.
Fabregas, comme je disais dans le RMC Footshow avec Coach Courbis, je le disais un peu en souriant, mais je le pense. Aujourd'hui, il est pas milieu relayeur. Il est relayeur du message du coach pour ses partenaires.
Ouais, mais même parce que t'as l'impression qu'il est passif sur le terrain. Tu vois même pas qu'il a un comportement de leader. Et surtout, t'as Adrien Silva sur le banc. C'est bizarre, toi,
Anit, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la mise à l'écart de Slimani et le départ probable cet hiver?
Moi, je pense que il y a une mauvaise gestion, je pense, au niveau du club. Je pense que.
Ça, c'est sûr.
Ouais, je pense que déjà, il y a des choses qui sont pas claires, déjà, au niveau des supporters, et je pense que ça l'est moins au niveau des joueurs aussi. Le problème, c'est au niveau, le projet, c'est quoi à Monaco? Il y a une époque, le projet, c'était de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel pour, voilà, les revendre. Donc ça, c'était clair, c'était dessiné, on savait pourquoi on signe à Monaco. Là, j'ai l'impression que ça a un petit peu changé. Alors, on recrute des Ben Yedder, on recrute, voilà, on a des prêts de Slimani. Voilà, il y a un changement. Moi, j'ai l'impression que c'est pas clair. En fait, c'est un peu flou à Monaco.
Je pense qu'il y a des choses derrière tout ça,
je vais te dire, Anit, ce qui se passe à Monaco. À Monaco, c'est simple. Ils veulent gagner de l'argent le plus possible.
Ils veulent revendre.
Ils veulent gagner de l'argent. Pourquoi ils font venir des joueurs qui vont pas forcément être bankable? Parce qu'ils veulent finir le plus haut possible au classement pour pouvoir avoir le plus de droits télé. Encore une fois, l'argent. Ou laisse-moi finir, Jonathan. Ou alors pouvoir revendre le plus cher possible parce que t'as fini le plus haut possible.
Mais non, mais
voilà.
Ce qu'ils veulent,
arrêter de croire que
ils
ont quelque intérêt que ce soit.
Ils vont revendre
sur le sportif.
Ils vont revendre.
Ils veulent revendre le plus cher possible.
La situation, on la connaît. La situation des propriétaires vis-à-vis de Monaco. On sait qu'il y a eu pas mal de promesses qui n'ont pas été tenues de part et d'autre. On sait qu'il y a eu des problèmes. Qu'il y a eu des problèmes avec la justice. C'est bon, pour lui, c'est terminé. Le club est en vente. Personne ne veut le dire clairement parce qu'il faut qu'il y ait une déclaration sociale. Non, mais tout le monde le sait. Le club est en vente. Et Ribolovlev n'investira plus. Et là, maintenant, ce qu'il veut, c'est, comme tu l'as dit, finir le plus haut possible pour les droits télé. Mais c'est tout. Il faut passer à autre chose.
Merci, Anit.
Bah, je vous en prie. Mais en tout cas, il y a eu pas mal quand même d'investissements quand même sur Monaco. Hein. Donc,
ouais, quand même.
C'est paradoxal.
Ouais, Chouameni, les gars, 20 millions d'euros qui va sûrement arriver cet hiver de Bordeaux. 20 millions d'euros
club, ouais,
pour un gamin de 19 ans, voilà, pour le revendre. Donc, merci Yannick, ouais, c'est excellent. Si tu reviens quand tu veux dans l'after, évidemment, Monaco est 12e de Ligue 1 après 21 journées. 29 points, je me dis que sans Slimani, s'il faut, Monaco serait relégable ce soir.
Bah, il y a des chances.
Franchement, c'est possible.
Il y a au moins 3-4 matchs qu'on a en tête où il est sans lui, ils prennent pas le 1 ou 3 points.
Le rugby, ça va mieux pour Clermont. J'ai un télé face au Stade français, pardon.
Ouais, 8 minutes à jouer avant la fin du match. Deuxième essai pour les Clermontois à l'instant, signé par le 3e ligne fidjien Pesseli Yato. Pas d'arbitrage vidéo. Il l'a validé tout de suite cet essai et les Clermontois qui prennent un petit peu le large. 27 pour Clermont, 19 pour le Stade français avant la transformation. Il reste 8 minutes à jouer dans cette rencontre.
Et on y voit la fin du match avec toi dans un instant après la pause. Montpellier, très belle opération, la bonne opération de la soirée. Montpellier est 4e de Ligue 1 ce soir et il confirme ce qu'on dit, tout le bien qu'on dit de Montpellier depuis le début de saison dans l'after du samedi soir. 33 points, 21 matchs, on en parle. Appelez-nous, supporters Montpellier 1 au 32-16. On vous attend, à tout de suite.
RMC,
l'after foot.
Nicolas Jamain,
Jonathan McCarty, Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle qu'à 23h30, 3 drôles de dames, Simone Rovera, Fred Hermel et Paulo Breitner. On va parler de Mercato également, hein, en France et à l'étranger. Je vous reconfirme cette information signée Mohamed Bouafsi. On est tout proche d'un accord entre Bordeaux et Monaco pour Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, lui, est en train de s'est mis d'accord quant à son contrat, 19 ans. Espoir, Tchouaméni, joueur en plein progrès.
Ouais. Hein, ouais, formé au club.
Formé à Bordeaux, 20 millions d'euros. Là aussi, on a un club qui a besoin de faire entrer de l'argent
un peu
à Bordeaux.
Surcoté.
Ah, ben.
20 millions?
1 million, ben, bravo Bordeaux, hein. Hein?
Ouais, non? Franchement, 20 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup pour
il
un
joueur. Il partira dans 6 mois pour 25 millions d'euros. Ils auront fait 5 millions de plus-value.
C'est ça, ouais. C'est
voilà. Avant de parler de Montpellier, la belle opération de la soirée, le rugby, Julien Théier, Clermont, Stade français.
75e à Clermont. Les Clermontois qui ont attendu l'heure de jeu pour faire basculer cette rencontre. Mais là, ça semble fait désormais pour les Clermontois qui ont 10 points d'avance sur le Stade français. 29 à 19 pour Clermont qui va en plus terminer la rencontre à 15 contre 14 devant 15 517 supporters. Puisque Johan Maestri, le deuxième ligne, est capitaine du Stade français, a pris un carton jaune il y a une minute de cela sur l'action précédente. Clermont mène de 10 points, 29 à 19 face aux Parisiens. Il reste 5 minutes à jouer.
Allez, on va. Merci Julien. Tout à l'heure, on va commencer. On devait parler de Montpellier, mais on aura un invité Messin dans un instant pour évoquer la victoire précieuse du FC Metz ce soir sur la pelouse de Reims. Tiens, parlons rapidement de Brest quand même, messieurs.
Ah oui.
Pourquoi? Ah oui.
Ah, parce que c'était.
Victoire de Buzyn face à Amiens, un match hyper important. C'était voilà, le 14e contre le 18e.
C'est oui, comme tu l'as dit, c'était un match qui était hyper important. Écoute, bon, en parler longuement, j'ai dit au France, j'ai pu parler de ce match une heure avec Jean-Marc de la Maison du Whisky qui était très inquiet pour lui. Et c'est un peu, c'est pas pour le citer, mais c'est un peu la température du côté des supporters amiennois.
Une catastrophe.
Ils sont très, très inquiets par rapport à ce match-là. Pour eux, ça allait être un match, un vrai tournant. Moi, ce que je pensais avant le match, c'était que c'est très difficile d'aller gagner à Brest parce que t'as cette ambiance un petit peu champêtre. T'as ce stade un petit peu spécial, t'as une équipe qui est très performante à domicile. Et ce deuxième but qu'ils prennent, pour moi, il leur fait beaucoup de mal parce que le match, il n'y a rien qui va vraiment dans leur sens. Et le problème de cette équipe d'Amiens, c'est qu'elle manque cruellement d'efficacité. Alors, la grande question qu'on avait depuis longtemps, c'était de savoir si Elsner deviendrait un petit peu plus pragmatique. C'est parce que c'est vrai qu'Amiens, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on les voit jouer, ils jouent bien, ils sont pas efficaces, mais ils ont la possession, ils se procurent des situations, ils essaient toujours de repartir de derrière. Maintenant, ce qu'il faut faire quand t'es dans cette situation-là, c'est mettre parfois des grands coups de savate devant et arriver à tenir le match nul. Chose que nous, on peut parfois déplorer. Mais c'est le problème de cette équipe, c'est qu'elle est très, très naïve. Elle est très, très naïve. Et c'est dommage.
Il manque du talent, surtout. Pour moi, il manque trop de talent dans cette équipe.
C'est un peu léger.
C'est un club qui travaille bien, mais j'ai envie de dire, alors c'est pas pour être méchant avec les Amiénois, mais pour moi aujourd'hui Amiens, au niveau de leur structure, au niveau de pour moi ils ont rien à faire en Ligue 1. C'est une anomalie aujourd'hui. Alors qu'ils soient là, ils l'ont mérité, mais maintenant ça va être quand même très difficile d'y rester.
Messieurs, on va faire une pause, on va revenir sur la victoire de Metz, hyper importante. Metz qui s'impose à Reims ce soir, meilleure défense de Ligue 1, et on est en direct avec un Messin ce soir, latéral gauche du FC Metz, Mathieu Hudol. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir Mathieu. Bon, ben, je vais te dire un poncif de journaliste football. Elle va faire du bien cette victoire. Évidemment du bien. Vous prenez un petit peu votre distance avec la zone de relégation. Vous êtes 16e ce soir.
Ouais, c'est sûr. On a regardé les résultats des autres équipes et puis on voit que voilà, on a 5 points d'avance maintenant sur Amiens, donc c'est un petit bol d'air pour nous. Après, faut continuer à rester sur cette série de victoires. Maintenant, on a entamé une série, donc il va falloir continuer et voilà pour vers notre objectif du maintien.
Ouais. Ah oui, c'est le deuxième, la deux, bonsoir. Mathieu, c'est votre deuxième victoire consécutive, ça fait 6 points. C'est vrai que vous avez fait le trou maintenant sur Amiens. Et pour moi, la différence entre Metz et les autres équipes dans dans ce mini championnat pour éviter la relégation, c'est que vous avez quand même un numéro 9 en la personne d'Habib Diallo qui est hyper performant.
Ah ouais.
Ce qui fait la différence, je pense, par rapport
aux 11 buts.
Vous, comment vous le vivez sur le terrain? Est-ce que vous êtes conscient que c'est une de vos forces? Comment lui se sent?
Oui.
Comment vous organisez? Est-ce que ça tourne autour de lui? Et racontez-nous un petit peu.
Bah après, c'est sûr que vu l'efficacité qu'il a actuellement, on peut que tourner autour de ses qualités, lui apporter des bons ballons devant le but, des centres comme on a pu marquer aujourd'hui. Après, il faut pas que ça vienne que de lui. Il faut que ce serait bien qu'on ait aussi d'autres joueurs qui apportent quelque chose sur le plan du scoring. Mais bon, on avance avec lui qui marque beaucoup de buts et c'est bien pour lui. Il faut qu'il continue comme ça pour nous aider vers notre objectif.
On vous a pas vraiment.
Mathieu Hudol est avec nous, un latéral du FC Metz, un des plus anciens désormais, un des cadres du vestiaire déjà du FC Metz.
Alors on vous a pas, d'ailleurs félicitations pour votre victoire, mais on vous a pas vraiment senti en difficulté dans ce match. Vous êtes bien rentré avec ce but assez rapide et ensuite on vous a senti quand même plutôt bien géré tout au long du match. Franchement, c'est une belle prestation et je pense que en effet vous êtes sur le bon chemin. Mais vous, comment vous avez suivi ça depuis la pelouse? Est-ce que vous vous êtes senti en difficulté ou est-ce que comme moi vous avez senti que vous maîtrisez quand même bien les débats?
Bah, maîtriser, je dirais pas ça quand même parce qu'ils avaient beaucoup la possession. Après, c'est sûr qu'on n'a pas subi de grosses occasions à part peut-être des frappes à l'extérieur de la surface. Sinon, on a bien su tenir le jeu. Après, c'était compliqué avec la pelouse aussi qui n'était pas en très bon état. Mais voilà, là, dans la situation où on est, on va chercher les 3 points, c'est le plus important. La manière n'y est pas forcément, mais on s'est resté solide, on prend pas de but sur chacune de nos victoires, donc faut continuer comme ça.
Merci beaucoup Mathieu, latéral gauche du FC Metz. Merci Arnaud Valadon,
qui
nous a permis de t'avoir dans l'after. Metz Saint-Etienne, prochaine journée, le week-end prochain, avant d'aller à Montpellier, de recevoir Bordeaux et un déplacement à Nantes et de recevoir Lyon. Je m'arrêtais là.
De toute manière, Reims n'était pas bien en ce moment. Ils sont sur une mauvaise série et puis le problème de Reims,
c'est sans victoire.
Ouais, c'est ça. Et le problème de Reims, c'est que face au gros, ils font toujours des matchs où ils se les sortent de là où je voulais, enfin de là où je pense. Ils arrivent à avoir des résultats, mais contre des équipes qui sont un petit peu plus fermées où il faut plus faire le jeu, ils ont toujours du mal. Bah, c'est pas vraiment une surprise en soi.
Toujours pareil. Le problème de Reims, c'est que sans tes joueurs de talent, on va dire qui pour moi sont un peu au-dessus de ce que peuvent faire les joueurs de Reims, c'est-à-dire Dia, que ce soit Cafaro et Oudin, bien sûr, qui n'est plus là et qui ne sera plus là cette saison. Et bah pour moi, cette équipe de Reims, elle a aucune marge. Et quand elle est sur une pelouse difficile contre une équipe qui joue sa survie, et bah elle trouve pas les solutions.
Surtout la différence de Metz, elle n'a pas de buteur. À Reims, 18e ou 17e attaque de Ligue 1. Certes, c'est la meilleure ou meilleure défense de. Oui, mais bon, mais ça suffit pas.
Hein. Ça suffit pas.
Il
ouais.
y a Sibachu qui sur la durée un point de chute.
Ça, c'est vrai. Bah, il pourrait prendre là-bas, oui.
Ouais, pourquoi pas. Ah, oui. Slimani. Ouais, pourquoi
mais
pas.
Tu sais, par rapport à ce qu'on disait là sur Amiens, parce qu'on va faire un petit dossier spécialement, tiens, tu vois. Pour moi, Amiens, c'est ça qui est frustrant, c'est que quand tu regardes les joueurs qu'ils ont offensivement, Godos, Kakuta, Guirassy, Konaté, il y a quand même du talent dans cette équipe-là, et je trouve ça aberrant qu'il n'ait pas plus de joie qu'il n'arrive pas à marquer plus de buts. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe, c'est très difficile de mettre le doigt dessus parce qu'il joue bien, il se procure les occasions, mais à l'instar de la saison dernière ou il y a 2 saisons où Guirassy et Konaté plantaient leurs buts, on se disait quand même Guirassy et Konaté, c'est des bons attaquants de Ligue 1. On en parlait même d'offres d'Angleterre qui venaient pour l'un comme pour l'autre. Mais là, tu te retrouves avec une équipe qui n'a plus de numéro 9, qui est incapable de marquer des buts. Kakuta et Godos font leur match. Godos leur retourne la
Godos, tu l'attendais,
je l'attendais, Godos, bien sûr. Non, mais il met des ballons devant le but. Il est présent. Mais la différence, par exemple, avec Metz, c'est ça. C'est qu'à Metz, t'as un mec qui s'appelle Habib Diallo et qui va mettre 15 buts cette saison et qui permettra à Metz de se maintenir.
Je sais pas à quelle valeur ça a, parce que c'est une immense valeur, quoi. 11 buts quand tu joues à Metz. C'est-à-dire qu'il en sera à 20 au PSG.
Mais
côté servi, parce que
il est pas non plus. Quand t'as Nguet à côté de toi qui lève pas la tête une seule fois, c'est pas mal déjà.
Ni il lève la tête, ni il défend. Lui, c'est avec et sans le ballon. On peut pas vraiment compter sur lui.
C'est Radonjić bis un peu, non?
Ouais, c'est un Bertrand Traoré un peu, tu vois.
Radonjić Traoré.
Parfois les Messins, on a l'impression qu'ils jouent un peu à 10. Mais bon, après, c'est vrai que. Si tu compares ces deux équipes, alors on sait pas, hein, parce qu'il y a aussi une question de confiance et de dynamique, mais voilà, c'est quand même très juste et ça va quand même se batailler jusqu'au bout.
Si on compare les deux équipes, si on regarde les joueurs, si on va regarder vers la pub, Amiens a des meilleures individualités, c'est ça, sauf qu'ils n'ont pas le buteur qui...
Il leur manque un buteur. Quand t'as pas de buteur, évidemment, l'équilibre
est fragile. Ils sont muets.
Et t'as moins de marge. Rappelle juste le classement, Toulouse qui jouera demain, 12 points, 20e, Nîmes, 19e, 15 points, Amiens, 18e, 18 points, Dijon, 21 points, 17e, Metz, 16e, 23 points, voilà, puis Bordeaux, hein, 15e, 26 points, dis donc.
Tu te rends compte?
Dans un instant, on parle des Verts. La réaction de Saint-Etienne. On parle de Montpellier également, quatrième de Ligue 1 ce soir. Et puis les drôles de dames. Mais d'abord le rugby, c'est terminé entre Clermont et le Stade français, Julien Tellier.
Terminé sur la victoire de Clermont qui s'impose 29 à 19 face au Stade français ce soir. Bonne opération pour les Clermontois qui vont remonter à la sixième place du classement à hauteur de Montpellier avec ses 4 points de la victoire. 2 essais pour les Clermontois. McIntyre 56e et Yato 72e. Ce sont les Parisiens qui avaient dominé le début de cette rencontre avec un essai notamment si Evaïséa. Les Clermontois ont attendu l'heure de jeu pour faire basculer cette rencontre. Ils s'imposent 29 à 19 face au Stade français.
Merci Julien, excellente soirée à toi. Les drôles de dames, Simonet, Fred et Polo, Montpellier, Saint-Etienne. Le 32-16 est ouvert. Appelez-nous supporters Montpellier, appelez-nous supporters Stéphanois, bien sûr. On est ensemble jusqu'à minuit. Et puis bien sûr, on va revenir sur le match nul, triste match nul de Marseille face à Angers en fin d'après-midi. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain,
Jonathan Macardy, Kevin Diaz. L'after est là jusqu'à minuit à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC. Faites nombreux à nous écouter également le 32-16, le hashtag RMC Live. Appelez-nous supporters Montpellier, supporters Stéphanois également. Tiens, vous rappelez de Rachid?
Ouais.
Qui nous a amené un couscous il y a deux semaines.
On
là. Nous avons un message. Salut John, Nico, Kevin, Arthur le standard, toute l'équipe toujours à l'écoute, même quand on roule pas. Après le couscous, la pastilla marocaine. John ne dira pas non. Bonne émission les mecs.
Et Rachid, merci Rachid. Et ta harissa, elle était du bled, elle était magnifique. Ouais, j'ai mangé avec du kiri, je l'ai torché en deux de le pot.
Avec du kiri?
Bah, c'est un truc de bledard. Ça,
mais ah ouais, d'accord, ok, d'accord.
Brick Kiri Harissa.
Pourquoi pas. Voilà le programme. Les drôles dames également à partir de 23h30. Fred Hermel, Simone Rovera et Polo Breitner avec un Bayern étincelant en fin d'après-midi qui se rapproche du RB Leipzig. Parlons maintenant de Montpellier. Ouais. Messieurs, Montpellier s'impose ce soir. Alors, c'était pas simple. Hein. Montpellier qui joue quasiment une deuxième période entière à 11 contre 10 après l'exclusion pardon de Mounir Chouillard. Tiens, un mot sur Chouillard quand on en a parlé.
Ouais.
Le mec il plombe son équipe.
Un peu. Ouais. Ouais,
il prend un premier jaune, il mérite un rouge. Il remet la même quasiment en deuxième période. Il prend un jaune, donc deux jaunes rouges.
Ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment erreur de jeunesse là. Manque d'expérience. Tu fais déjà une grosse faute. Tu t'en sors très très bien avec seulement un carton jaune. Bah tu sais que tout le match va falloir te tenir à carreau. Même si j'en veux un peu à son entraîneur qu'il a pas sorti, parce que je pense que il aurait pu le sortir pour éviter justement. On sait que c'est quand même un joueur qui a beaucoup de talent. Moi que je connais depuis quelques années, vraiment, il m'avait sérieusement impressionné déjà à Lens, mais il est encore jeune et malheureusement, il va falloir qu'il apprenne de ses erreurs.
Tiens, il vient d'appeler au 32-16, Nathéo, supporter dijonnais. Bonsoir Nathéo.
Salut Nathéo.
Et bienvenue dans l'after. Jonathan Macardy et Kevin Diaz t'écoutent. Tiens, un mot sur Chouillard, tu l'en veux, j'imagine?
Franchement, j'avais envie de péter ma télé, les gars. Je vous le dis, très clairement, c'est inutile. Il me semble, à 20 mètres du but. Il y a 0-0, on est assez bien dans le match. Montpellier domine pas énormément à ce moment-là, et ça casse tout, voilà.
Ça casse tout, et puis son...
Ah, t'as raison, oui.
Après son carton rouge, coup franc plein axe, but, ouais. Double peine. Bah, voilà, terrible.
Ancien Dijonais, Mollet, on peut que l'applaudir, le coup franc est magnifique.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Moi, ce qui m'énerve le plus dans cette équipe de Dijon, c'est qu'on a un visage qui est complètement différent entre nos matchs à domicile et à l'extérieur, et ça date depuis énormément de temps. Même en Ligue 2, c'était déjà le cas. Il n'y a pas une saison où ça n'a pas été le cas.
Ouais, mais c'est vous, les supporters, vous êtes trop chaleureux à domicile, c'est ça? Vous êtes trop chaleureux.
Ce que je dis, moi, c'est même pas l'ambiance qui peut les pousser à domicile, parce que la situation dans laquelle sont les ultras de conflit avec le président à Dijon, c'est pas possible que c'est l'ambiance qui les pousse à domicile, et pourtant, il y a vraiment une différence dans le jeu. Ils tentent des trucs à domicile, ça joue à terre, à l'extérieur, on fait que balancer, et c'est complètement inutile.
Bah, t'as raison, hein, c'est ça. Après, il faut dire que tu tombes face à une équipe qui, même si Montpellier n'a pas dominé outrageusement la première mi-temps, c'est quand même une équipe qui est compliquée à manœuvrer. Après,
bien sûr.
Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour Dijon, et c'est la même remarque que pour Amiens, c'est que il y a du mieux dans le jeu depuis quelques temps. T'as quand même pas mal de talent. On a parlé de Chouillard, mais Mavididi aussi est là. Tavares qui revient, c'est bien aussi. Mais t'as pas de mec qui est capable de te mettre les buts sur lesquels te reposer.
Et en plus, aujourd'hui Tavares, messieurs, il a quand même deux belles occasions.
Ouais,
Tavares.
C'est ça, ouais.
on espère l'arrivée de Benzia au mercato, on en parle. Ouais. On espère vraiment tous à Dijon.
D'Alexandre Mendy.
C'est beau, on sait pas ce que ça donnera maintenant.
De qui? Alexandre Mendy?
Non, de Benzia.
Benzia. Yacine Benzia. Ouais, mais Yacine Benzia, c'est pas un buteur, mon pote, c'est pareil.
Ah, je sais bien, après, je pense que
c'est pas un mec qui met des buts
offensivement, mais.
Ouais. Et t'as vu, vous avez vu aujourd'hui, les gars, il y a un mec qui avait été prêté par la Juve à Dijon l'été dernier. Matheus Pereira. Le gars, donc, 6 mois, il a quasiment rien fait. Il est reparti à la Juve, qu'il a prêté au Barça.
Oui,
avec l'équipe B. Barça B, ok, non, mais c'est quand même, sidérant, quoi.
Non, mais il y a un truc d'agent,
Non, alors Barça B a fait 3 recrues aujourd'hui, pour son équipe réserve. Mais bon, c'est tout, je comprends rien, parfois. Tu dis Matheus Pereira qui n'avance pas en Ligue 1 à Dijon, qui appartient à la Juve, qui part au Barça dans la foulée, bon, bref.
Après,
c'est né pour finir, voilà, c'est une équipe
pour
réserve.
Il y a un point quand même sur le coaching, parce que comme vous dites, Jobard sort pas chouillard qu'elle joue. Moi, il y a quelque chose d'autre, c'est que, il fait rentrer pour moi Cadiz très très tard, alors que Cadiz a énormément apporté une fois qu'il est rentré. Et ça, franchement, c'est dommage.
Et une autre chose, moi, tu vas m'éclairer là-dessus, mais je fais peut-être une fixette là-dessus, si tu vas penser, mais pour moi, Ndong n'a rien à faire dans le 11 titulaire d'une équipe de Ligue 1.
C'est terrible, Ndong.
Alors là, je suis pas d'accord sur ce point-là, parce que si vous demandez à beaucoup de supporters de Dijon, on est très fiers des prestations d'Ndong, pas forcément à domicile. Au milieu, il nous fait du bien, et justement, on aurait aimé quelqu'un pour l'accompagner, parce qu'Amalfitano a fait longtemps du bien à Dijon, mais là, on voit que
il est fini. C'est la fin.
Et il faut changer. Bah, c'est ça, il faut changer. Et malheureusement, sur le banc, c'est qui? C'est Balmont. C'est Marie qui revient de blessure. Non, il faut un milieu de terrain pour accompagner
Ndong. Ah, moi, Ndong, je le trouve brouillon. À chaque fois, je le trouve brouillon. Alors, je trouve qu'il a des qualités qui sont intéressantes. Techniquement, il est quand même relativement habile pour un joueur comme ça. Mais à chaque fois, il est brouillon. J'ai l'impression qu'il fait souvent les mauvais choix, que dans ses placements, alors qu'il joue, il est censé, tu vois, assurer une couverture quand même pour les deux centres derrière. Il les laisse un petit peu dans la panade. Ah, mais je sais pas. Si tu me dis que vous êtes fier, je regarderai. J'essaierai de faire encore plus attention. Ouais.
Là, je suis d'accord sur le point qu'il apporte plus devant que derrière, et que c'est vrai que ce serait mieux qu'il coupe un peu plus les passes, qu'il couvre un peu plus les lignes.
C'est ce qu'on lui demande.
Sur ce point-là, je suis d'accord.
Voilà, c'est ce qu'on lui demande.
Merci, Nathéo.
Mais y a pas de quoi.
Excellente soirée à toi, Dijon, qui est désormais, après sa défaite face à Montpellier, 17e de Ligue 1, 21 points. J'ai envie de dire, les gars, qu'on a les équipes qui vont lutter pour le maintien maintenant. Metz, Dijon, Amiens, Nîmes, Toulouse. On verra, Toulouse qui ira à Lyon demain, en plus, ça va être compliqué.
Metz, un petit cran au-dessus pour les raisons.
Est-ce que tu mets Bordeaux dedans, Nico?
Non, Bordeaux, Bordeaux, ils vont se maintenir avec 38 points. Voilà, très bien.
C'est pour être taquin.
Ouais. Montpellier, messieurs.
Alors, oui.
Montpellier, 4e de Ligue 1 ce soir. Montpellier, l'une des équipes les plus cohérentes, les plus régulières de Ligue 1. 3e victoire consécutive pour les hommes de Dazac Arian. 33 points en 21 journées, à 4 points du podium. Rennes est 3e.
Bah, enfin, déjà, on a vu les deux. Ouais, sur ce milieu de terrain, les deux, c'est Jordan Ferry et TJ Savanier.
Pas trop en Ferry, hein. C'est lui qui commande aussi. Hein.
C'est ça, exactement. Direct. Ça leur fait beaucoup de bien. Alors, il n'est pas encore à 100% parce qu'il faut qu'il se remette un petit peu dans le bain. Mais je pense que ça risque de faire des étincelles, ce milieu, alors qu'on a déjà vu à Nîmes. Hein. C'était déjà le duo nîmois l'année dernière.
T'as vu quand le mec revient, quand Mollet et Savanier se disputent pour un coup franc.
C'est lui qui arrive.
Il vient, il fait non, TJ, tu prends le ballon, exactement. Tu frappes.
Exactement. Bam. Et le coup franc est fini sur la barre, donc c'est
à deux doigts. Au coup franc,
même si il va quand même falloir mettre un petit bémol.
Ouais, oui, il faudra que ils arrivent tous à s'entendre, parce que t'as au milieu de terrain, tu risques d'avoir un espèce d'embouteillage entre Mollet, Chotard,
avec des niveaux presque similaires.
Ferry, Savanier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a deux qui dans ces choix à faire, parce qu'au final, t'en as trois à choisir. Il y en a deux, voilà, c'est évident qu'ils doivent jouer, c'est Ferry et Savanier. Donc je suis très confiant pour Montpellier, avec Ferry qui revient bien, toujours les mêmes qualités. Je trouve qu'Andy Delors, même s'il en est qu'à 8 ou 9 buts, je crois, 8 buts, c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve qu'il fait une très très grosse saison dans l'implication, dans la volonté, dans le don de soi et dans le collectivement. Je trouve que collectivement, c'est un joueur qui est en plein progrès. Je trouve qu'il est de plus en plus intelligent et qui libère beaucoup d'espace pour ses coéquipiers par l'intelligence de ses appels. Et je le maintiens. Je pense que Montpellier jouera les 3-4 premières places jusqu'au bout de la saison.
Ah ouais?
Moi, Montpellier, j'ai fait c'est mon petit pari, mon petit coup de folie. Mais pour moi, Montpellier finira sur le podium. C'est un coup de folie, mais Montpellier finira dans les 4.
C'est un coup de folie, on peut y aller.
Ils finiront dans les 4 devant. Ouais, ils finiront dans les 4.
Ouais, moi je pense que ça va quand même être compliqué pour Montpellier de finir. Déjà, je pense que s'ils finissent 5e et donc européen, ce serait une belle saison. Maintenant, moi ce que je disais déjà la dernière fois, il va falloir quand même faire attention du côté de la paillade au niveau. Mais bon, je fais confiance à Dazac Arian, mais la gestion des égos. Hein, il y a quand même Ferry, il y a Savanier, il y a Mollet, il y a Chota, ce sont tous des gros caractères. Le Talek,
cinq,
tu vois.
5 pour 3 postes.
Ils sont 5 pour 3 postes.
Alors, même si aujourd'hui, joue dans l'axe actuellement.
Aujourd'hui, ils ont joué en losange. Donc, il pourrait y avoir une place en plus qui se libère. Mais, va falloir faire attention parce que cette petite altercation entre. Altercation.
Ah non.
Cette petite discussion, alors. Voilà. On va dire entre Mollet. Mais on sait que Mollet, c'est quand même un joueur qui a un gros caractère.
Gros caractère.
Voire, ça va dire aussi. Va des fois, un sale caractère, on peut le dire.
Ah oui, c'est clair.
Donc, par contre, derrière, il prend le ballon en champion. Il la met ficelle. Là, il y a rien à dire. On l'a senti d'ailleurs rageur. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, Jonathan, mais je l'ai senti bien rageur après le but. Mais bon, voilà. Moi, ça va être quand même à gérer pour
derrière. Franchement.
Après, c'est des problèmes de lui.
Je connais un ou deux mecs là-bas qui jouent. L'ambiance, ce qui ressort, c'est que l'ambiance est extraordinaire entre eux. Ouais, alors qu'ils aient un petit peu, du caractère.
Non, mais c'est normal.
Pour moi, vu de la télé, après, je sais pas, peut-être que vous avez des écrans.
Non, les gars, arrêtons.
C'était rien. C'était pas une altercation.
Chacun voulait tirer le coup franc parce qu'on a deux excellents tireurs de coup franc.
Je le tire. Non, je veux la tirer. C'est tout. C'était une discussion. Il y a pas.
Ouais, mais tu sais, de l'extérieur, c'est ça. Mais dans un vestiaire,
ils s'entendent plus bien, je t'assure.
Oui, mais dans un vestiaire, je crois pas que ces petites altercations, elles peuvent. Heureusement qu'aujourd'hui, ils ont gagné. Voilà.
Mais ils s'entendent très bien. Et c'était pas une altercation.
Ce petit échange.
Mais regarde un petit peu, il fait la tu sais, comme le mec à l'école qui veut foutre la merde là, comme ça, qui pointe les trucs du doigt. Franchement, c'est pas si grave que ça.
Dans un vestiaire, il faut pas grand chose pour mettre le feu.
Ouais, mais là,
il la belle histoire, c'est qu'en deuxième période, il est joué à son coup franc et il a marqué Mollet. Et
dans le vestiaire, alors qu'il est même pas surtout super titulaire, Mollet.
Alors qu'il a des stats lui aussi. Je crois qu'il a 5 buts
dans
6 buts 3 passes.
Il est super hyper titulaire dans sa tête.
Ouais, mais c'est qui les trois là Savanier, titulaire indiscutable.
Ferry.
Mais les trois, indiscutable.
Ouais, indiscutable.
Pour moi, après, pas pour moi.
Ouais, pas forcément.
Bah, Ferry, pour moi, c'est le patron. Au milieu, ça va être le patron. Et après.
Ça va peut-être être le patron, mais pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est le patron.
Bah oui, il revient. Il a été blessé, revient, mais aussi, là tu l'as vu comment il se comporte depuis son retour. C'est lui qui donne un petit peu les ordres. C'est lui un petit peu qui a l'air d'être le relais de Derzakarian. Pour moi, il est indispensable. Ouais. Après, ça, en fonction de l'adversaire, je pense qu'ils joueront soit avec Chotard, soit avec Mollet, où les deux pourront se partager le match. Et t'as le Talek qui lui paye un petit peu, qui ne démérite pas, hein, mais qui paye un petit peu sa polyvalence. Là, ce soir, en l'absence de Pedro Mendes, il joue derrière. Il peut jouer dans les deux postes. Voilà, je pense qu'en fonction des adversaires, il y aura de quoi faire. Mais pour moi, Savanier Ferry, t'y touche pas. En plus, on sait que ça fonctionne. Les deux, on les a vus l'année dernière. Ils étaient extraordinaires ensemble à Nîmes.
Ouais. Voilà pour Montpellier, donc quatrième de Ligue 1 ce soir, avant les matchs de demain. Nantes, qui en cas de victoire passerait à nouveau devant Montpellier. Cinq victoires consécutives Montpellier, hein, toutes compétitions confondues.
Question avant qu'on passe autre chose. Est-ce que ça vous choque pas que maintenant on appelle Andy Delors l'Algérien?
Non, il appelle Mohamed, hein, c'est quoi?
Non, c'est ok. Mais en fait, dans le quotidien sportif numéro 1 en France, le seul unique, il appelle l'Algérien.
L'international algérien. L'international.
Non, il a écrit l'Algérien.
Bon, ok.
C'est bizarre un peu, quand même.
C'est que maintenant, en tout cas, les quotidiens sportifs, ou même tu vas voir les jeux vidéo aussi, c'est le pays que tu as choisi, ouais. Et c'est ta nationalité.
Français, Andy Delors.
Mais l'international algérien, nationalité footballistique, bien sûr. Tiens, on va commencer sur Saint-Etienne. On finira peut-être tout à l'heure, messieurs. Saint-Etienne qui gagne ce soir. Saint-Etienne qui gagne enfin, première victoire depuis le 4 décembre dernier en Ligue 1 pour Claude Puel, qui a mis tous ses joueurs de retour, les Bouanga, Amouma, notamment sur le banc. Ça a payé quand même. 2-1 face à Nîmes, doublé de Kazri, qui en est à 3 buts seulement cette saison.
Ouais, franchement, moi j'ai bien
soulagement.
J'ai bien aimé Kazri, en tout cas sur la première heure de jeu, parce que j'ai voulu vraiment le noter pendant le RMC Foot Show, parce que j'ai vraiment trouvé que ce but, Jonathan, franchement, c'est un vrai but de bon joueur et de joueur qui revient en pleine forme, parce que le contrôle, l'enchaînement derrière, le petit plat du pied, pleine course comme ça pour aller chercher le petit filet opposé, vraiment un but 3 étoiles comme j'ai noté. Et par contre, ensuite derrière en deuxième mi-temps, c'est vrai que quand même les Verts ils se sont fait peur
face à 10 contre 11 contre Nîmes,
qui a toujours quand même cet état d'esprit qui veut rien lâcher, et avec une fin de match rocambolesque où franchement pour une épaule ils auraient tout aussi bien pu faire match
nul. On rappelle qu'il y a une égalisation de Nîmes, effectivement, mais but annulé pour un hors-jeu par l'assistance vidéo, tout proche du 2-2. Saint-Etienne et Nîmes dans un instant. Mickaël, supporter des Verts, sera avec nous. Je vous rappelle le programme de la deuxième heure de l'after, Marseille-Angers, on en parle. Beaucoup de choses à dire sur Marseille, les gars, ou pas?
Oui.
Énormément de choses à dire. Appelez-nous, supporter marseillais, au 32-16. On va évoquer la vie sans Payet. Est-ce que l'avenir de Marseille ne tient qu'à un film, ne tient qu'à un Dimitri Payet? On en parle dans un instant. Les drôles de dames, bien sûr. Paulo Breitner, Fred Hermel. Pour la victoire, la défaite du Barça aujourd'hui. Le Real demain qui veut prendre le pouvoir en Liga. Et également Simone Rovera qui va nous parler de Deschelio. annoncé au PSG en remplacement en échange avec Kurzawa et également d'autres infos mercato à venir. À tout de suite, c'est l'after. Jonathan McCarty, Kevin Diaz.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé. Ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe. Tout le monde se donne à fond et surtout on est bien cadré par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'after foot. Nicolas Jamard.
Avec Jonathan McCarty, avec Kevin Diaz. Et c'est la deuxième heure de l'after du samedi soir. Bien sûr, les drôles de dames arrivent dans un instant. Le débrief de Marseille-Angers 0-0. Mais on finit sur les Verts, messieurs. L'AS Saint-Etienne, on accueille Mickaël au 32-16, supporter des Verts. Salut Mickaël.
Salut les gars.
Bienvenue à l'after, Mickaël. C'était pas brillant, mais ça fait quand même du bien, j'ai envie de te dire.
Bah oui, ce qu'on va retenir, c'est surtout les trois points.
Ouais.
Parce que sinon, dans le jeu, c'était pas terrible, hein, c'est poussif. Il y a le point positif, c'est le retour de Kadri qui, je trouve, qui est plus affûté qu'avant. je trouve que ça va beaucoup mieux. Mais pour notre problème, c'est que voilà, derrière, je trouve que c'est quand même assez fébrile, surtout en fin de match où vraiment on a voulu gérer le score, mais voilà, ça fait X temps qu'on n'arrive pas à gérer un résultat.
Mmh.
Et le souci, c'est que voilà, devant, il faudrait aussi recruter un avant-centre parce que on tue pas les matchs en fait, on veut pas tuer les matchs et voilà. Bon, le retour des blessés font du bien aussi.
Jabonga qui est revenu quand même.
Juste Mickaël, tu sais, oui. t'es juste le quatrième club à qui on dit aujourd'hui qu'il faut recruter un attaquant. Hein. Dans la première heure de l'after, on l'a déjà dit, on l'a dit pour Dijon, on l'a dit pour Amiens, on l'a dit, tu sais, tous les clubs aujourd'hui veulent un attaquant.
Ah bien sûr. Mais le souci c'est que.
Bah, vous aviez Berić mais vous l'avez laissé partir.
Et ils ont notre ami. L'ancien Dijonais là, donc ils essayent de se séparer, mais ils n'arrivent pas du tout à lui trouver un point de chute.
Berić c'est parti.
Il y a Charles Abi. Il fait des bons matchs, Charles Abi, mais le problème c'est qu'il a toujours pas marqué.
Si, il a marqué un but, je crois.
Il a marqué un but, c'est si. En coupe, c'est
un but en coupe de France.
En coupe, ouais. Mais en championnat, il a toujours pas marqué. Il lui manque ça. Après, il est jeune. Il fait partie de cette génération de la Gambardella qui est assez extraordinaire, mais c'est quand même des jeunes joueurs.
Bien sûr, il faut laisser le temps.
Belkedi, Mabi et compagnie, ça deviendra des très bons joueurs. Mais il faut prendre son temps.
Vas-y, Mickaël.
Ouais, le souci, c'est que c'est des jeunes joueurs. Cette année, ça sera. Voilà, je pense que c'est une année de transition. En tous les cas. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi à Claude Puel.
Ouais.
Qui est là, vraiment, je pense, pour du long terme. Je pense que cette année, voilà, il n'a pas choisi les joueurs. Et les joueurs sont c'est pas les siens. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Donc le mercato d'hiver, je sais pas si on va se renforcer plus que ça. Je sais pas du tout.
Je pense pas, Mickaël.
Ouais, je pense que ça va être trop juste.
C'est quand même un effectif important aussi.
Vous essayez de prendre un latéral là, apparemment qui joue en N2, je crois.
Oui. Mais bon, après je sais pas ce qui vaut vraiment réellement. Hein. Je le connais pas.
Non.
Donc c'est un peu le mystère. Mais voilà, j'espère vraiment que cette année, c'est une année de transition.
Ouais, c'est ça. Mickaël, faut l'accepter. T'es 14e de Ligue 1, t'as 28 points, tu vas te maintenir, a priori, sans trop de soucis.
Oui, effectivement,
faudra être plus exigeant avec Saint-Etienne l'été prochain.
De toute manière, le problème, les gars, de cette équipe, c'est que depuis que Puel est arrivé, on va lui laisser du temps, on sait qu'il est sur le moyen terme, mais c'est qu'il faut dire la vérité, l'ambiance au sein du groupe est totalement délétère. Entre Claude Puel
au sein du club et de l'environnement également.
Exactement. Entre Claude Puel et la majorité du vestiaire, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre la porte. Regardez l'interview et l'échange de Colo avec Puel. La réponse de Colo à Puel dans l'équipe, Puel qui lui répond en conférence de presse, ça part un petit peu dans tous les sens. Yann Mvila qui a un moment la direction et Claude Puel voulait tout simplement le mettre à pied, le renvoyer pour le licencier. C'était dans les tuyaux. Il y a quand même une ambiance qui est pas facile à gérer.
Tu peux aussi de l'ambiance entre dirigeants et supporters.
L'ambiance entre dirigeants, tout simplement.
Ouais, qui est critiqué entre dirigeants et supporters. Cayazo qui est conspire en permanence.
C'est ça, Nico. C'est un club qui va mal.
Alors, il a du boulot, quoi.
Ils avaient tout pour bien faire cette saison avec, partir sur la bonne dynamique de ce que Gasset avait fait. Ils ont fait le mauvais choix en choisissant Ghislain Printemps. Dont acte. Mais maintenant, voilà, il faut tout reconstruire. Et de toute manière, c'est un peu dommage parce que cette équipe-là, elle avait quand même une base sacrément intéressante. Quand tu la voyais en début de saison, tu regardais les joueurs, tu regardais les recrues, tu disais, bah écoute, Saint-Etienne va jouer encore le top 5. Et voilà, patatras, il y a eu ce choix d'Islain Printemps qui a tout cassé. Maintenant, il faut assumer et il faut renouveler considérablement cette équipe.
Ouais, mais Kevin et après Mickaël. Le souci qui va se poser pour la Saint-Etienne, même en se projetant un peu, mais en arrivant à cette intersaison, parce que ça se prépare dès maintenant, hein, l'intersaison, hein, Mickaël, c'est tout de suite, là, c'est février, mars, avril, il va falloir prendre des contacts avec des joueurs, il va falloir aussi prendre des contacts avec des clubs, voire malheureusement peut-être des agents pour se débarrasser d'un tel ou un tel, mais ça va pas être facile, parce qu'il y a des bons salaires à la Saint-Etienne, il y a une grosse masse salariale, et donc forcément, on le voit avec Certic à l'OM, on le voit avec des joueurs dans pas mal de clubs.
Les salaires, ils sont pas énormes.
Je te parle de la relation salaire niveau du joueur.
Mais même
Luis Diony, il faut s'en débarrasser. Mais si il peut pas partir.
Non, Kevin, il y a plus de salarié cap qui veut Diony
avec ce salaire.
Je te dis, ils ont plus le salarié cap. Mais d'après ce que on va vérifier nos Twitter, nos tutos nous l'ont envoyé. Mais les salaires fixes sont pas très importants. Par contre, ils ont des primes énormes.
Ouais, mais ça c'était avant. Non,
c'est toujours le cas. Ouais. Regarde le salaire par exemple de Yohan Cabaye ou de Mathieu Debuchy, c'est pas énorme.
Non, mais eux c'est pas pareil. Eux c'est des joueurs qui ont déjà fait leur carrière.
Même Johnny, je crois qu'il est à 80, 90.
Ils sont venus au moins autant pour le projet. Ouais, mais 80-90. Qui est-ce qui donne 80-90 aujourd'hui en Ligue 1? Il y a un joueur qui joue pas.
Un pigeon en Angleterre.
Tu vois ce que je veux dire, Mickaël? Moi mon propos c'était juste de dire il va falloir laisser peut-être Claude Puel les manettes. Est-ce qu'il va vouloir les prendre? Ça, je ne sais pas. Maintenant, avec une direction qui s'entend pas vraiment avec ses supporters, on ne sait pas s'ils sont pas en instance de départ, on ne sait jamais à Saint-Etienne. Cette instabilité ambiante, en tout cas, je souhaite bonne chance à celui qui va prendre les décisions, donc à Claude Puel, parce que ça va être un sacré travail.
Mais les décisions, on a commencé à les prendre. Il a commencé à les prendre en mettant de côté un bon nombre de joueurs. Il envoie des signes très forts. C'est Charles Abi quand même qui a 19 Berges qui est titulaire à la pointe de l'attaque.
Sa direction le suit.
C'est qu'il y a ils le suivent. Ils le suivent. Du moins une partie de la direction.
En tout cas, il y a
une sorte de consensus autour de lui. Après, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe là, c'est que et qui est fortement à valoriser, c'est leurs jeunes. Alors comme on dit sur Lyon, faut pas que tout tourne autour d'eux. Mais les Madi Camara, les Ben Kedim, les Charles Abi, ceux qui ont vraiment fait une très belle Gambardella, cette génération-là qui est hyper intéressante, ça peut représenter le présent après pour les performances sportives et ça peut représenter aussi un beau potentiel de vente pour après.
Faut pas trop en attendre des jeunes, justement, parce que si on en attend trop, après on peut être déçu aussi.
C'est ce que je te dis, Mickaël.
Je pense que surtout vraiment se débarrasser déjà de, pour moi, voilà, comme dit Kevin, des gros salaires qui pèsent énormément.
Et oui, ça faut pas l'oublier.
Bon, en plus, voilà, pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air, on va dire.
Il n'y a pas de gros salaires. Je suis devant là. Il y a Yann Mvila. T'as un gros salaire, c'est Yann Mvila et Wahbi Khazri.
Combien, vas-y, envoie?
210 brut.
C'est quoi tes sources là?
France Foot, je crois, qui publie le salaire. Il y a Stéphane Ruffier qui, lui, certes, il le mérite, il est à 180. Et après, quand c'est les Debuchy et compagnie, c'est à 100. C'est à moins de 100. Ouais, Johnny, il est à 90.
Oui, mais pour Saint-Etienne, c'est beaucoup. C'est trop.
Merci, Mickaël, d'avoir appelé 32-16.
Passez une bonne soirée, merci.
Salut Mickaël.
Excellente soirée à toi, évidemment. Première décision à portant depuis elle à Saint-Etienne. Cette semaine, il a demandé à tous ses joueurs de changer de semelle. Nouvelle semelle, se chausser différemment pour éviter les blessures. Beaucoup de blessures, notamment des problèmes d'aponévrose, une tendinite.
Ouais, mais ce management-là, quand même, il est difficile parce que.
Non, mais il est bon, Puel, tu vois, le moins de détails, quoi.
Ouais, mais le moins de détails, mais moi, je te dis que moi, j'étais un joueur de foot et je détestais avoir des semelles orthopédiques. Voilà, je supportais pas ça. Donc, s'il y a un joueur du groupe qui le supporte pas, va falloir qu'il le fasse parce que le coach l'a dit. C'est pour ça qu'il reste pas longtemps dans certains clubs.
Voilà pour l'AS Saint-Etienne, désormais 12e de Ligue 1. Tu dis une bêtise d'ailleurs. Saint-Etienne est désormais, messieurs, 12e de Ligue 1 grâce à sa victoire avec 28 points au compte, 14e de Ligue 1, 28 points au compteur. Marseille-Angers, 0-0. Je vous préviens, beaucoup d'appels au 32-16 pour parler de l'OM, bien sûr. Marseille 0-0. Marseille qui reste bien sûr 2e de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur Rennes, même nombre de matchs. 42 points pour l'OM, 37 pour Rennes, 33 pour Montpellier, 4e. J'accueille Maxime au 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir et bienvenue, Maxime.
Bonsoir à tous.
Salut Maxime. Bon, tout à l'heure, on s'est appelé avec Jonathan. Toi, tu m'as dit, en tant que supporter marseillais, puisque.
Je l'assume.
Tu l'assumes complètement, tu n'es pas journaliste.
J'ai parié 20 balles sur le fait que c'était soit nul ou Angers.
Et tu les sentais mal. Ouais. Maxime, est-ce que tu t'attendais à un match compliqué, on rappelle, sans paillettes?
Ben, forcément. forcément, on voyait très bien qu'on avait, il nous manquait le monsieur plus pour marquer un but. Forcément, ça manquait de talent et ce côté imprévisible qu'on a chez uniquement ce joueur-là, qui est Payet.
Mais ça tient qu'à Payet à Marseille, en fait, pour la créativité?
À deux choses.
Que tu me dis?
À deux choses.
Vas-y, Maxime, après Jonathan.
C'est la créativité, mais c'est aussi ce côté, le joueur qui fait la différence sur une demi-occasion, ce côté imprévisible, c'est la créativité, mais c'est aussi la capacité de pouvoir marquer un but sur une demi-occasion aussi, quoi.
Et réguler le tempo du match aussi. C'est important.
Et qui plus est, fait, ouais. Forcément.
Mais il y a aussi, il faut le dire, l'absence de Bouba Camara, qui est quand même assez préjudiciable, parce que tu avais trouvé un bon équilibre au milieu de terrain qui permettait à Sanson et à Rongier d'apporter beaucoup offensivement aussi. Quand Srout Manela, il est un petit peu moins sûr, et tu as l'impression que les deux sont un petit peu se réfrènent un petit peu, même si Valentin Rongier a encore fait un très gros match ce soir. Mais ces deux absences sont extrêmement préjudiciables.
Il a fait un grand match, mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver face au gardien, et à chaque fois qu'il est face au gardien, il n'est pas bien encore.
Il s'est cagué.
Un problème d'efficacité, Valentin Rongier. Tiens, messieurs, écoutons. Reste avec nous, Maxime. Écoutons les propos d'André Villas-Boas en conférence de presse juste après le match nul de l'OM face à Angers. Il parlait de l'absence de Payet.
Barcelone est Messi dépendant, la Juventus est Ronaldo dépendant. Si on est Payet dépendant, on est Payet dépendant. Mais ne m'inquiète pas, tous les bons joueurs font la différence pour nous. Mais non, j'ai pas problème d'assumer une chose comme ça. Et oui, il nous manque parce qu'il est un joueur que précisément peut trouver le dernier passage et le but. Mais il était suspendu aujourd'hui et les gars qu'on était dans la surface ont fait un match de courage, de patience.
Voilà. Alors, avant que tout le monde s'enflamme, notamment des anti-marseillais éventuels, il compare pas Ronaldo et Messi à Payet. Il compare des situations en fait. Hein, l'importance d'un joueur dans un effectif.
Voilà. L'importance d'un joueur dans un effectif. Je regarde la composition de l'OM et l'effectif de l'OM. Alors on va parler quand même des nations qui sont allées top 10 mondial. Combien il y a de joueurs à Marseille qui ont une chance un jour de rentrer dans une d'être titulaire ou de jouer dans une nation, d'être international dans une nation top 10
mondiale. On va donner le banc, c'est encore plus parlant. Sur le banc de Marseille cet après-midi, Valère Germain, Raoui, voilà. Marley Hacke, Montpellier, Lucas Perrin, Ali Mohamed et Florian Chabrol.
Je vais même plus loin, Jonathan. À part Steve Mandanda, dans l'équipe type de l'OM, il n'y a personne. Il y a Strootman à une époque.
Camara, il jouera dans un grand club, Camara.
Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il sera international français titulaire?
Je pense.
On n'en est pas sûr.
Un jour viendra, il a 19 ans.
Mais d'accord.
Aujourd'hui. Chacun son tour, Kevin et Maxime.
Juste, Maxime, moi, je te parle de l'équipe de l'Olympique de Marseille 2019-2020. Tu vois ce que je veux dire?
On est dans un débat sur
Marseille.
Attendez les gars, chacun son tour. Finis Kevin et Maxime.
Si tu me laisses finir, on est dans un débat Marseille-Angers en 2020. On n'est pas sur Marseille-Lyon en 2024. Tu vois ce que je veux dire?
Donc je te dis,
pour moi aujourd'hui, il n'y a que Dimitri Payet et Florian Thauvin qui sont les deux joueurs de cet effectif qui ont un niveau de top européen. Donc forcément, quand il y en a un des deux qui est là, ça va, mais quand les deux sont absents, c'est une équipe d'Angers bien en place.
On est d'accord pour dire que le travail, en fait, là où je veux en venir, en fait, sur ce match-là, parce qu'au final, l'analyser, c'est compliqué. Angers a pas vraiment fait preuve de bonne volonté.
Ils auraient pu gagner
en fin de match. Marseille a manqué d'imagination. C'était un match qui était soporifique. On n'a pas grand-chose à dire dessus. Mais en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que quand tu regardes, en fait, la composition de cette équipe-là, quand tu regardes l'effectif qui est à la disposition d'André Villas-Boas, là, t'as raison, Kevin. Il faut souligner qu'André Villas-Boas, là, d'être deuxième, même si le niveau de championnat est faible, c'est incroyable. Il fait un travail qui est magnifique. Mais là où ça m'énerve un petit peu, c'est que cette équipe, t'as Florent Thauvin, ton meilleur joueur qui est Florent Thauvin, c'est pas Dimitri Payet, c'est Florent Thauvin le meilleur joueur de l'OM.
C'est un autre débat, on le garde pour un autre jour.
Par contre, ce qui m'agace, c'est que quand tu vois que cette équipe, que l'équipe dirigeante a dépensé 200 millions d'euros pour arriver à avoir un effectif où tu as un banc composé de minots, où tu as un joueur qui est absent et où ton entraîneur n'a aucune autre solution que de faire jouer le pauvre Maxime Lopez, ailier et Radonjić titulaire, tu te dis que t'es vraiment dans la cour des miracles. Donc ce match-là, écoute, franchement, si on le prend après le match, tout le monde était un petit peu énervé, tu te dis ça casse un petit peu la série, t'avais l'occasion de reprendre un petit peu d'avance sur Rennes, c'est un petit peu frustrant. Mais quand on regarde les circonstances, quand on regarde l'opposition de style quand j'ai opposé, quand on regarde que Dimitri Payet n'était pas là, au final, est-ce que dans la grande image, dans le grand scénario de cette Ligue 1 là, peut-être que ça sera un bon point.
Mais bien sûr,
c'est un bon point. L'objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions. Après, on aura le temps de discuter sur le fait que, voilà, on veut faire des compétitions avec les top clubs européens. Pour le moment, on n'en est pas là, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme par rapport à l'historique du projet, forcément, on en est là, quoi.
Non, mais je trouve, Maxime, je trouve, attends, Kevin, je donne la parole. Là où tu as raison, Kevin, c'est qu'effectivement, celui avec des champions, c'est dans, grosso modo, 8 mois, à peu près. C'est que là, tu as un effectif limité. Quasiment changer 70% de son effectif, si tu veux faire au moins bonne figure en Ligue des Champions.
Mais Nicolas,
le chantier, les gars, le chantier est considérable.
Mais attends, considérable. Si Marseille, et là je vous le dis, si Marseille va en Ligue des Champions l'année prochaine, ça me fait mal au cœur de le dire, mais s'il n'y a pas un miracle d'argent qui tombe du ciel, Marseille joue la relégation la semaine
prochaine. Il n'y aura pas de miracle.
La relégation, je ne pense pas, vu l'état de la Ligue aujourd'hui. Mais le truc, c'est quoi? Marseille est deuxième de Ligue 1. Mais en vrai, au final, si Lyon avait fait le travail, c'est Lyon qui structurellement, au niveau de l'effectif, au niveau de la qualité, doit être deuxième. Et Monaco doit être troisième. C'est clair. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte.
C'est un miracle.
Villas-Boas est un magicien.
Il tire le meilleur de cet effectif.
C'est un magicien.
Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe qui sont un petit peu, on a tendance, je sais pas, tout le monde les raille un petit peu. Mais par exemple, Maxime, t'es toujours là. Je sais pas ce que tu penses, mais je trouve que Tchaletatsar, cette saison, il fait quand même une très grosse saison. Il montre qu'il a un très gros potentiel. Je pense qu'il ira dans un club qui aura un avenir européen. T'as parlé de Bouba Camara, ça, on est d'accord. Alvaro, c'est un vieux briscard. Il a un niveau, je te dis pas, niveau
national,
mais c'est quand même très très bon. Je pense qu'au milieu de terrain, quand Bouba Camara est au milieu de terrain, il a le niveau d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Valentin Rongier, il est encore jeune, il a 24 ans. On verra jusqu'où il va aller, mais c'est un très bon joueur. Il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif-là. Mais le problème, c'est le nombre, c'est la quantité. T'es trop court en quantité.
Oui, mais pour la Ligue 1,
un énorme budget,
c'est
un maximum.
Et oui, c'est ça.
La Ligue 1, ça suffit. Il y a personne en Ligue 1 à part Paris.
Ah, ça suffit, mais là, regarde, t'as Camara et Sarr qui sont suspendus, t'as Payet qui est suspendu. T'es un peu dans la merde quand même. Donc même pour la Ligue 1, ça suffit pas tant que ça, Maxime. Hein.
Merci, Maxime.
Ben merci à vous de m'avoir
invité,
surtout.
Merci. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Merci, avec plaisir.
Allez, tiens, on accueille Laurent également qui patiente depuis 15 bonnes minutes, supporter Marseille au 32-16. Salut Laurent, bienvenue, bon merci de ta patience.
Salut Laurent.
Vous m'entendez bien ou pas?
Très bien. Bon, parfait. Tu penses quoi de ce débat-là sur la qualité de l'effectif de Marseille? En fait, pour schématiser les gars, ce qu'on peut dire là, c'est que Marseille redevient une équipe ordinaire, ou un peu plus quand même. Quand Payet n'est pas là.
Et ajoute une chose avant de laisser la parole à Laurent, il faut quand même le reconnaître dans le contenu depuis la reprise, c'est pas génial. Avec Jean Payet, c'est le contenu, c'est pas beau.
Vas-y Laurent.
Moi, si je peux me permettre, faut dédramatiser un petit peu là ce match. Tu vas gagner à Rennes, alors tu dois jamais gagner. Tu gagnes 3-0 contre en Coupe de France, alors que c'est pas le reflet du match.
Tu sors très lisse à côté
de toi. Tu peux gagner. Tu peux faire nul, c'est normal. Je veux dire, l'effectif, comme vous dites, comme il dit toujours Daniel Riolo, faut pas se poser la question qu'est-ce qu'on va faire avec les champions l'année prochaine. Et là, du coup, c'est qu'on a vraiment un effectif qui est comme il est. Ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu, on a essayé de marquer. Moi, en fait, j'ai un petit coup de gueule à faire. C'est Angers, ce qu'ils ont fait ce soir. C'est affreux pour le spectacle. Et j'aimerais qu'au lieu qu'on parle de Marseille, on pointe du doigt ce qu'a fait Angers, en fait. Parce qu'au final, s'ils avaient joué, ben, tu fais 1-1 ou 2-2, tant que tu perds même. Ouais, mais du coup, tu as du spectacle. Il y a un allant qui est bon pour Angers, pour Marseille. Et voilà, je veux pas casser le.
Non, mais
le
t'as
débat,
raison,
mais moi,
Laurent. Tu sais,
qu'on parle d'Angers ce soir un petit peu. Ouais, parce que si le niveau de la Ligue 1, je te coupe, excuse-moi, il est où il est. C'est quand même. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a l'OM 2019. Voilà, on n'est plus Paris. Angers, qu'est-ce qu'ils viennent jouer comme ça au Vélodrome?
Ouais, mais j'y ai pensé, Laurent, je t'assure que j'y ai pensé pendant le match. Je me suis dit quand même, Angers 7e, qui est quand même intéressant cette saison. Ah, ils viennent, déjà, ils sont pas bons, parce que c'était d'ailleurs leur entraîneur adjoint pendant le match qui a été interviewé, qui a dit qu'ils avaient été mauvais. Et on
il a dit Stéphane Moulin après le match, on n'a pas joué à notre niveau.
Voilà, ils n'ont pas été bons. Mais ils n'ont pas été bons, pourquoi? Ils n'ont pas été bons parce qu'à Marseille, sans Payet. Mais à Marseille, avec un bon Sanson, j'ai trouvé. Un Marseille qui a été, certes, pas flamboyant, mais qui a quand même. S'il y a une équipe qui mérite de gagner ce match, ça reste quand même l'OM. Même s'il y a eu deux, trois occasions en contre pour Angers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas non plus dénigrer ce point pris. comme a dit Jonathan, comme on a déjà dit, ça reste un bon point face à une équipe très correcte de Ligue 1 qui est venue en plus pas forcément pour jouer et pour jouer en compte.
Mais en plus, Laurent et Kevin, c'est pas moi, je leur taperai pas dessus à Angers parce que c'est non, ok, c'est pas beau ce qu'ils ont fait.
Ils jouent avec leurs armes.
Mais c'est pas une équipe qui le fait systématiquement.
Je râle pas en mode supporter marseillais. Là, en fait, à un
moment donné, ce que tu veux dire.
Au bout de 20-25 minutes, j'étais devant ma télé, je voyais que nous, on n'y arriverait pas, qu'on n'a pas, les éclairs de génie que peuvent avoir Paris, même Monaco ou Lyon, des fois, mais on les a eus précédemment.
Ouais, ça, c'est la mentalité Ligue 1.
J'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage, tant ils jouent, ils en mettent un. Nous, on égalise après, ça fait le même résultat, mais. Tu passes un bon moment,
Laurent,
tu te dis,
franchement, c'est dur, je te comprends, mais c'est dur de dire ça sur Angers qui n'est pas non plus ultra coutumier du fief. Ils le font de temps à autre.
Cette année, mais là, j'ai vu Moulin au Canal Football Club, il disait, oui, c'est vrai, je joue beaucoup comme ça, ça me permet d'avoir des résultats. Je me mets à leur place, moi, hein. Mais comme là, je vous dis, on oublie que je suis supporter de l'OM. Ça m'a vraiment embêté parce que depuis que j'ai votre chaîne, d'ailleurs, je vois beaucoup de matchs anglais et tout. Et ben, au final, ça fait 2-2, mais t'as passé un bon moment, mais je pense que faudrait qu'on souligne un peu plus et qu'on se dise pas hop, chien.
Bon, allez, ça va, on t'accorde.
Voilà. C'est
et les gars,
pas plus, pas moins.
Bah, tu sais, voilà, c'est tout à l'heure, on parlait du champ lexical de la Ligue 1. Faudrait faire un dictionnaire Ligue 1, bloc équipe. On est bien en place. C'est cohérent ce qu'on propose.
Ouais, ouais.
Ils sont venus défendre le point qui leur avait été accordé avant le match.
Ouais, est-ce c'est que, ça. Ou quoi d'autre, pour... quoi d'autre comme expression attends, sur la
ça,
Ligue 1.
C'était Galtier, ça.
Ouais.
Est-ce qu'on a des nouvelles du PSG Melali, là?
Eh non.
Ça, c'est une tuile pour eux. Parce que c'est vraiment un joueur qui était en pleine progression, qui était
très décisif. Non, mais il est là, il a joué. Hein.
Ouais, mais oui, mais
il s'est blessé, on verra.
Sur les images, c'était pas beau. Hein.
Il avait une grosse attelle.
Ouais.
C'était pas beau parce que c'est involontaire, mais à ma vie, lui tombe en plein sur la jambe. Tu vois sa jambe qui tourne, ça, c'était pas génial.
Enfin, Angers, ils sont contents. Ils sont 8e de Ligue 1 pour l'instant, 30 points. Ils vont se rassurer. Ils pourront essayer de faire un peu mieux sur les 7-8 dernières journées.
Après, maintenant,
prendre des points bonus.
Si on revient sur l'OM, moi, je me demande une chose, c'est, Marseille est deuxième. Marseille a accumulé les bons résultats. Moi, je me demande si cette équipe est capable, tu vois, en deuxième partie de saison, de passer la seconde, justement, de passer la seconde vitesse. Parce que les résultats ont été accumulés. Le problème c'est que t'es sur une série de matchs où t'as gagné, mais dans le contenu ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça aurait même dû, tu vois, au match, je pense au match de Rennes, jamais tu dois le gagner, mais tu finis par prendre les 3 points. T'as ces débuts poussifs en coupe, ça je vais les mettre un petit peu de côté, mais dans le contenu, ça fait un moment que j'ai pas vu Marseille convaincant, serein, sûr de ses forces. Alors, il va avoir le retour de Florent Thauvin. Il a repris la course là. Donc, je pense que d'ici un mois, il pourra peut-être réintégrer le groupe. Apparemment, c'est ce qui se dit. Mais cette équipe a vraiment besoin, d'une part, de récupérer Dimitri Payet. Elle a vraiment besoin. Et là, Villas-Boas, on a loué son travail, mais je pense qu'il a lui aussi besoin de réfléchir à 2-3 alternatives, parce qu'on a bien vu que Pipa Benedetto, et quand il est isolé comme ça, tout seul, ça va pas. Et qu'à partir du moment où justement il repasse en 4-4-2,
il a reçu aucun ballon aujourd'hui.
Ouais, mais Kevin, quand t'es passé de 0 tir en 30 ou 40 minutes, quand il remet en 4-4-2, même si c'était brouillon, t'avais des situations et t'as eu des tirs. Donc est-ce qu'il faut pas passer en 4-4-2 dès le début du match?
Je
pense qu'il faut essayer de travailler
au milieu de terrain aussi.
Mais là, non, mais là t'étais serein quand même au milieu. Et après, en plus, t'avais pas Bouba Camara. Donc je pense qu'il y a 2-3 alternatives à trouver. Il faut aussi Villas-Boas. Ouais, mais je pense qu'il cherche. Je pense qu'il cherche parce que franchement, au cours de match, sur les 2-3 derniers matchs, là, je l'ai vu, essayer de changer de système, essayer de jouer à deux pointes, essayer des choses. Et je pense qu'il en a conscience de ça. Donc j'ai quand même confiance en la suite pour l'OM. Mais attention, t'es quand même sur un fil du fait de la faiblesse de ton effectif et de l'incompétence de ton équipe dirigeante.
Merci Laurent. Vas-y Laurent, conclue.
Juste, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, et je pense juste que la clé de cette fin de saison, c'est peut-être un peu grâce à Villas-Boas d'ailleurs, mais si on reste un peu serein, vous avez vu, au stade, ça n'a pas sifflé.
Ouais.
Vous, les
ça
médias,
poussé jusqu'au bout. Alors, attends.
Vous êtes un peu plus, un peu moins, comment dire. Vous
c'est
un
parce
peu
que je suis là ce soir.
Dis-le.
Excellent. Mais je pense que du coup, ça ne fait pas de crive ou quoi. Il y a eu nul, on n'en parle pas trop.
Une sorte, le climat est apaisé, t'as raison. Alors, il y a quand même une banderole, Laurent, si tu peux me permettre, en avant-match, qu'on a vu, banderole du commando Ultra 84, qui dit, enfin, l'état d'esprit retrouvé. Continuez 2020 comme vous avez terminé 2019. Mais quels que soient les résultats, notre volonté reste inchangée. Direction démission. Héros démission,
bien sûr.
Voilà.
Je trouve que c'est venir, enrayer la machine tout seul, mais je critique pas, mais voilà, juste c'est pour dire ça.
Ok Laurent.
Si on reste serein, je pense que c'est bien. Passez une bonne soirée, merci pour
toi aussi Laurent.
Merci, tu reviens quand Laurent. Tu veux. Et toi aussi, t'es un bon
Laurent. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Marseille qui va jouer cette semaine en Coupe de France, réception de Strasbourg.
Ouais.
Et deux déplacements à venir en ligne, consécutifs, à Bordeaux, la malédiction. 1977, messieurs.
C'est pour cette
année, la bonne année, tu crois? Moi, je pense que c'est la bonne année. Enfin, pour Marseille, hein. 43 ans après.
On dit ça tout le temps, mais à chaque fois on se prend les pieds dans le tapis. Donc moi j'en parle même plus.
Saint-Etienne, Marseille, le week-end d'après. Non, en milieu de semaine prochaine, tu vois. En 3 jours.
Alors, 4 jours de c'est bizarre parce qu'on se tape Bordeaux et Saint-Etienne à la suite. On se tape les deux clubs amis qui se lient contre nous. En général, ouais,
on verra
avec les supporters, c'est toujours comme
oui,
ça.
T'as raison, bah, les supporters, les ultramarines et les Stéphanois sont très proches. Voilà, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Fred Hermel arrive. Paulo Breitner arrive. Simone Rovera arrive lentement, mais il arrive. Oh, Jonathan Macardy, quoi? Non, parce qu'il est un peu lent. Ah. Et Kevin Diaz,
on a dit qu'on arrêtait ce genre de remarques. Un peu arrête. On a dit qu'on arrêtait ce genre de remarques.
RMC, l'After
Foot,
Nicolas
Jamain, Jonathan Macardy, Kevin Diaz. Oui, Jonathan, nous sommes à la télé également sur RMC Sport News, donc les pieds sur la table, c'est pas ici.
Non, mais j'ai appris une nouvelle. Non, mais j'ai appris une nouvelle hallucinante.
Quoi?
Kevin vient de me dire que Fabregas avait encore 2 ans de contrat à Monaco.
Oui, 2022. C'est beau, hein. Je pense qu'il n'est pas à 80 000 euros par mois, si tu veux, ce garçon, à mon avis. Tu vois.
Ouais. 80 000 euros par semaine.
Eh ben,
ouais, magnifique. Par semaine, effectivement. Bah ouais, mais c'est vraiment
pas lui. Eh ben, moi, je lui tire mon chapeau.
Bah, c'est pas de sa faute, effectivement.
Voilà. Il a
raison.
Il a mis aucun pistolet sur la temporaire, ça. Monsieur Cesc, bravo. Bravo.
Monsieur Chassin-Vegas. Justement, un homme qu'il a connu, qu'il a commenté, est avec nous. Monsieur Fred Hermel est dans l'after et dans la place. Bonsoir, Fredo.
Quel grand joueur. Voilà, Ticos.
Mais oui, ce fut un grand joueur.
Bah excusez-moi, enfin, c'était le faux numéro 9 de la sélection espagnole à 1 euro. Il a marqué des buts importants. Il a marqué notamment un tir au but très important. Ça a été un grand joueur, Fabrice.
Ça a été, on parle au passé. Ouais, ouais.
Bah oui, bah oui, bah après, on vieillit tous, hein.
Bon, mais attends, il est pas si vieux, il a 32 ans. Fred?
Oui,
mais,
non,
mais il a commencé très jeune. Il a commencé très, très jeune.
Il a raison.
Il a des kilomètres au compteur.
Il a raison, Jonathan. Mais il y a un truc, c'est que, à un moment, là, les gens sont un peu durs avec lui, mais quand il aura terminé sa carrière, on regardera son palmarès.
Non, mais c'est un monstre, c'est un monstre.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, ce qu'il fait à Monaco, c'est justement parce qu'on a en tête ce qu'il a fait auparavant. C'est pour ça qu'on est très sûr de ses performances.
C'est comme quand tu vas voir, je sais pas, Bob Dylan en concert aujourd'hui. Bah, c'est voilà.
Tout le monde n'est pas Mick Jagger.
Oui, mais bon.
Bob Dylan, c'est terrible, quoi. Ça pourrait vachement baisser.
Tout le monde prend pas des produits, hein, tu sais, aussi, comme Mick Jagger.
Ouais, pour moi, Bob Dylan, c'est trop moderne, quoi. Tu vois, moi, c'est pas la musique que j'écoute, mais pourquoi ça a vachement baissé, Bob Dylan, ça?
Ah, c'est un peu tristoun.
Bah, tu vas le voir sur scène, c'est une catastrophe.
Un peu tristoun.
C'est terrible.
C'est dit, tout le monde n'est pas Mick Jagger. Et Mick Jagger,
voilà, quand t'as été une légende et que tu t'entêtes à continuer, bah, c'est dur, quoi.
C'est ça.
Allez.
Tout le monde ne meurt pas jeune comme Gérard Philippe.
Gérard Philippe, bravo.
Non, parce que moi, c'est l'idole absolue.
James Dean, tout ça.
Kurt Cobain, Gérard Philippe, bravo, Fred.
Gérard Philippe, c'est l'idole absolue. Et je viens de terminer l'œuvre, le livre extraordinaire de Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid. C'est extraordinaire. Ce sont les derniers jours de Gérard Philippe. Il n'y a pas que le foot dans la vie.
D'accord.
Et vous allez, c'est un livre. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu depuis très, très longtemps.
Redis le titre.
Le dernier hiver du Cid.
D'accord,
de Jérôme Garcin.
Voilà,
Fred. Énorme journaliste, énorme écrivain. C'est chez Gallimard et c'est, c'est fabuleux, quoi. C'est de la littérature que j'aime et plein de références culturelles que j'aime. Le site, tout ça. Enfin bref. Voilà.
Fred,
le Barça.
Un gros événement en Liga. Le Barça a été battu 2-0 par Valence. Certes, le Barça avec un grand gardien, mais un Barça sans idée, Fred.
Bah, franchement, s'il n'y avait pas Ter Stegen ce soir, on parlerait d'un 3-4-0, quoi.
Ouais.
Vraiment. Parce que Ter Stegen, déjà, il arrête un pénalty à 0-0. Il est vraiment très fort.
Ter Stegen et l'arbitre sont très forts.
Alors après, attends, je vais pas. Alors puisque tu évoques ça, l'arbitre, Ryd Mansalo, un moment, il y a un contre pour Valence, mais tu sens que ça va se terminer en but. Il y a une faute, notamment Doumtiti qui prend un carton, il laisse pas l'avantage et après il reconnaît qu'il a fait une erreur. Il met ses mains en disant pardon au joueur. Donc au moins un arbitre qui reconnaît sa connerie, franchement moi c'est respect.
Ok.
Tu vois, ce Barça. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. Est-ce que vous avez écouté la semaine dernière? Qu'est-ce que je disais après la victoire du Barça contre Grenade? Que le test c'était quand?
Valence.
Voilà.
Juste avant de te laisser débuter, Fred. Bon, je te fais une petite référence, mais est-ce que ce serait pas le dernier hiver du grand Barça?
Oh, magnifique. Bravo.
Merci.
Écoute, il
avait noté tout, t'as vu, il avait noté.
Je tire pas de conclusion hâtive, mais le problème n'était pas Valverde, le problème c'est Valverde, l'entraîneur, le problème c'est l'effectif. Voilà, parce qu'en fait, c'est un Barça qui tient grâce au but de Messi et aux arrêts de Ter Stegen. Et aujourd'hui, Messi a fait un très mauvais match, vraiment très mauvais.
Ouais.
Et Ter Stegen peut pas tout faire tout seul. Donc, en plus, tactiquement, moi, je comprends pas trop ce que fait Setién. Alors, en fait, Setién, ce qu'il fait.
Il a dit, il va y avoir du boulot.
Mais pourquoi il met l'anglais sur le banc? Je comprends pas.
Bah, moi non plus, je comprends pas, parce que petit, il fait un match catastrophique. Vous avez vu le petit sombrero qui se prend là? Setién fait du populisme footballistique. C'est-à-dire, il joue comme le public demande. Sauf que c'est pas le public qui demande. Le public veut jouer comme avec Xavi et Iniesta. Sauf qu'il y a plus Xavi et Iniesta. Oui. Franchement, le Barça a eu 70% de possession, a fait encore 800 passes. Et c'était que des passes quasiment horizontales. Et c'est uniquement quand le Barça a ouvert le score par Maxi Gomez que le Barça jouait un petit peu plus vertical. Je pense sincèrement, et Dieu sait si j'ai aimé ce football parce qu'il a permis à mon deuxième pays d'Espagne de gagner 3 titres comme le champion du monde et 2 euros. Mais je pense que le style tiki-taka de passes horizontales est terminé. Et pour en avoir parlé avec une personne du staff de Zizou, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans un football de transition très verticale.
Ah ouais.
On voit par exemple le succès de Liverpool.
Faut savoir faire les deux.
Ben oui, mais c'est-à-dire que le football, les passes à outrance, le football horizontal à outrance, qui a eu son succès à un moment, hein, rappelez-vous, avec l'Espagne, qui était la colonne vertébrale du Barça, hein, aujourd'hui ne marche plus. Donc, tu dis que c'est Bob Dylan est dépassé, ben le tiki-taka est dépassé. C'est un jeu de vieux, on va dire.
Ouais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 semaines, je t'avais dit que j'ai l'impression, moi, qu'en fait, ce Barça-là, avec ces joueurs-là, en tout cas avec ces anciens cadres, il est même plus entraînable. Dans le sens où tu pourras mettre. C'est eux qui décident, en fait. C'est eux qui décident la façon dont ils veulent jouer. Les supporters qui ont toujours cette fameuse image du grand Barça qui doit jouer en possession. Mais ils ont du mal à se réinventer, tout simplement. Et ça arrive à toutes les grandes équipes.
Hein. Oui, bien sûr. Il y a une Mais sauf que le problème, c'est que la période est un peu longue. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le Real, par exemple, la crise, elle a duré 1 an avec une saison catastrophique la saison dernière. Là, ça va mieux. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de révolution possible au Barça. Et Valence a totalement mérité sa victoire. Vraiment un très bon Valence avec, et je vais me permettre, puisqu'on n'est pas loin de l'Euro, le match que fait Kondogbia, la manière dont il a mangé Messi.
Oui.
Mais c'est impressionnant.
Mais les deux, Coquelin aussi fait un bon match. Hein.
Coquelin aussi. Ouais. Moi, j'aime particulièrement Kondogbia et je trouve que son apport physique allié avec une vraie technique de sortie de balle, ben, il a été très bon ce soir. À un moment, il a bouffé Messi, enfin, c'était impressionnant. Donc, c'était un match très intéressant de Valence, qui est un candidat, faut pas oublier, hein, Valence... qui tombe contre l'Atalanta.
Candidat au quart de finale. Mais attention, l'Atalanta, c'est impressionnant, Fred. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Simone. C'est imposé 7-0 sur le terrain de Torino ce soir.
Ça va être un super match.
C'est l'affiche que certains voulaient pas forcément voir. Moi, c'est presque l'affiche que j'ai envie de voir.
C'est-à-dire que c'est une affiche qui a l'air assez équilibrée.
Hyper ouverte.
Et moi, je dois reconnaître que j'étais le premier à dire oui, c'est l'Hadès, quelqu'un que j'ai connu du temps du Real Madrid.
Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas convaincu.
Moi, je l'aime bien. C'est un mec très sympathique.
L'homme du président.
Mais c'est l'Hadès, en fait, il met un petit peu, il est pas dogmatique, il est pragmatique, il met un petit peu de bon sens, et puis il a pas essayé de braquer les joueurs contre l'ancien entraîneur et tout ça. Il a dit bon, je suis là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. J'ai pas choisi, je suis là, et c'est intelligent. Mais, pour terminer sur le Barça, il y a un vrai problème.
Griezmann?
Il a mis un doublé la semaine dernière.
Fout que tu fasses insulter.
Fredo.
Excuse-moi, on en parle quasiment tous les week-ends, c'est une réalité, mais là, c'est de pire en pire,
j'ai l'impression. Attends, Kevin.
Alors, j'ai calculé les passes.
Zéro tir.
J'ai calculé les passes de Messi à Griezmann au dernier match, c'était 3. Vous savez combien de passes a fait Messi? Le Barça a fait 800 passes. Combien de passes de Messi à Griezmann aujourd'hui? Une.
Une seule passe. Alors qu'ils sont ensemble, côte à côte, ouais.
Voilà. Et là, franchement, enfin, côte à côte, c'est un système souvent qui est en 3-4-3, parce que ce soir c'était quand même très clair, Messi dans l'axe, Griezmann à gauche, Ansu Fati à droite, mais moi je le comprends, Griezmann en coupe, il a joué en pointe dans un système avec trois attaquants,
il met 2 buts,
il a marqué 2 buts, pourquoi pourquoi il n'y avait pas Messi qui n'était pas convoqué pour ce match. Pourquoi on n'essaye pas de... Tu vois, parce que quand il y a Suarez, Messi joue à droite. Pourquoi là ?
Mais c'est ce que je te disais, Fred. C'est ce que je te disais, Fred. Alors attention, je ne dis pas que Messi est un problème pour cette équipe. Mais
tu auras des problèmes, parce que attention.
Mais je vais aller dans
Frédéric, le correspondant à Madrid ne se sent pas responsable des commentaires du contre-temps parisien. Ouais.
Tu dois faire un communiqué également, Fred, ce soir.
Fred, je ne dis pas ça. Je dis juste que Messi, dans sa manière de jouer, bien sûr qu'il fait de l'ombre à Griezmann, et aujourd'hui, mais c'est triste de voir Antoine Griezmann comme ça.
Ouais, mais moi ça me fend le cœur.
J'ai envie d'aller trouver une explication sans tomber dans la théorie du complot que Messi ne veut absolument
pas.
Fred nous dit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, c'est tout simplement que les deux joueurs ont exactement le même profil et qu'ils se marchent sur les pieds. Et que je pense pas que les deux soient extrêmement compatibles.
Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour pas s'entendre avec Griezmann, faut vraiment le chercher. Parce que lui, il fait beaucoup d'efforts. Et les grands joueurs, on dit toujours que les grands joueurs jouent bien ensemble. Et moi, je pense, et ça fait 30 ans que je joue à du foot et 26 ans que je suis en Espagne, donc j'ai vu quelques matchs, les grands joueurs s'entendent. Mais il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Et j'ai l'impression que dans cette équipe, tout le monde met pas de la bonne volonté.
Ouais, c'est très possible. Tiens, précision, Fred Kondogbia, il sera pas à l'Euro, hein, puisqu'il a choisi la République centrafricaine.
Oui, c'est vrai,
Il est international.
Et c'est quand même très dommage. Oui, tu as tout à fait raison, je reconnais cette erreur. C'est vrai parce que ça s'est passé il y a un an à peu près, non?
Ouais, c'est ça. Il a quatre sélections avec la Centrafrique.
C'est dommage pour, avec tout le respect pour Geoffrey Kondogbia, c'est un peu un choix par défaut et c'est dommage parce que vu ce qui se passe en équipe de France avec nos milieux de terrain en ce moment, ce soir, je me dis waouh.
T'as raison. Fred, demain, le 15e de Liga, Valladolid accueille le Real, qui peut prendre le pouvoir de la Liga. Je sais pas, hein, ça devrait aller. Le groupe a été donné par Zidane en fin de soirée.
Vinicius n'est pas là. Valladolid a fait match nul à Bernabéu en début de saison. Hein.
Ouais.
C'était pas le même Real, hein. C'est les échos que j'ai pu en avoir au sein du staff technique du Real, c'est que c'est un match qu'ils craignent énormément. Parce qu'en Espagne tout est compliqué et que Valladolid est une équipe très difficile à bouger, tactiquement très bien entraînée par un ancien joueur de l'Espagnol notamment, et que cette équipe elle a privé du Real de 2 points en égalisant à la dernière minute.
C'est le Angers espagnol, t'es en train de nous dire.
Alors Angers, c'est vrai que c'est une équipe historique, mais Valladolid, c'est pas n'importe qui non plus dans le football espagnol.
Mais Angers non plus.
Attends, Raymond Coppa, excuse-moi, c'est un ch'ti aussi. Non, je critique pas Angers, mais c'est à dire que dans le football moderne, on va dire, Valladolid, c'est pas n'importe qui dans le football espagnol.
Mais ce que je vous dis, c'est que c'est une équipe comme Angers, sérieuse, qui est disciplinée, qui est collectivement organisée, qui est capable de poser des problèmes aux grosses équipes du championnat. Donc c'est le Angers un petit peu.
Donc si t'es pas à fond, tu mets pas Valladolid, quoi.
C'est ça.
Et c'est vrai que le Real a pas souvent profité des faux pas du Real cette saison. Là, ça peut être vraiment
un. Près des nouvelles de Hazard, Bale notamment. Vinicius n'est pas dans le groupe, hein.
Il n'est pas dans le groupe parce que Zidane fait des choix et il a raison. Et que Vinicius, il ne s'entraîne pas bien.
Fred, petite question. Tu les sens comment, toi, le Real à l'aube du printemps européen là? Tu sens la dynamique, c'est comment, outre les résultats, l'ambiance, comment Zidane a son groupe en main? Est-ce que tu es optimiste pour les huitièmes là?
Très optimiste.
Real City, les gars.
Pourquoi?
Le 26 février. Hein. Real, Manchester City.
Parce que le système défensif du Real, il est très, très, très fort. Et qu'en Ligue des Champions, c'est ce qui compte.
D'accord.
Le Barça a la chance également, on verra d'affronter le Napoli.
Franchement.
Et Valence-Atalanta, on va se régaler. Et Atlético de Madrid-Liverpool sera beaucoup plus compliqué.
L'Atlético.
Très vite, Fred.
Vu comment joue Valence, vu comment joue Séville ce soir, très bon match contre Grenade 2-0 avec une première période magnifique.
Ouais, pas sûr qu'il fasse top 4.
Real, Barça, Valence, Séville. L'Atlético, s'il continue dans cette logique-là,
n'est
pas sûr d'être dans les 4 premiers de jouer.
Je peux me mouiller sur un truc tout court. J'adore les deux équipes, hein, mais j'ai bien peur qu'il y ait une possibilité que Atlético-Liverpool soit des matchs qui soient très chiants à regarder.
C'est possible.
L'Atlético sait faire des jouets, ça c'est clair.
Voilà.
Merci Fred.
Adios chicos.
Excellente soirée. Merci à toi. L'After Elle jusqu'à minuit. Simone Rovera arrive dans un instant, bien sûr. Et Paulo Breitner aussi. Tiens, on va commencer par Simone. On va commencer par Simone Rovera qui est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Simone.
Voilà. Salut Simone.
Qu'est-ce qu'il est en forme, Simone,
quelle entrée légendaire.
Mais je vous écoutais vraiment, déjà parce que j'écoute toujours quand il y a Fred Hermel à l'antenne, donc c'est normal.
Ah bon, nous on pue, ouais, c'est ça. Ouais.
Vous avez dit une vérité, c'est que Atalanta-Valence va être la surprise des huitièmes de finale. Les matchs les plus intéressants, les matchs plus explosifs, les matchs où que, oui. Au début personne ne voulait voir, mais je sais que la soirée où il y a Atalanta-Valence...
19 février. Tu sais pourquoi je suis content, Simonet? C'est parce que ça fait des années que je te gave un peu avec, mais là, je pense que c'est l'année où Papou Gomez va éclater aux yeux de tout le monde sur la scène européenne.
Ok.
Josip Iličić, ce soir a été quelque chose d'extraordinaire.
7-0. Alors, j'avais pas prévu parler d'Atalanta parce qu'on en parle souvent, mais bon, là, on est un peu obligé de le faire.
Ah bah oui, oui.
Déplacement sur le terrain du Torino pour l'Atalanta Bergame, dont on loue non seulement les résultats, mais aussi le fond de jeu.
Et l'entraîneur.
Et l'entraîneur, bien sûr. Victoire sur le 9e. 7 buts à 0. Doublé de Muriel, triplé d'Ilicic, Zapata et Gosens.
Mais comment c'est possible? 7-0, c'est énorme.
Quand t'as un coach qui a des idées, quand t'as un coach qui tire le meilleur de ses joueurs, voilà, ça fait ça.
C'est magnifique.
Non, mais attends, surtout qu'en face, t'as un coach, Mazzarri, qui est connu pour être plutôt défensif, qui défend très bien, qui jamais casse autant de buts. Mais là, je vous invite à regarder, à chercher n'importe où les buts. Il y a des chefs-d'œuvre. Mais vraiment.
Non, mais le match en entier, Simonet. Regardez le match en entier.
Les premiers buts.
Moi, je vais regarder ce
match. Le match à l'entier, mais peut-être quelqu'un n'a pas le temps, c'est minuit presque. Donc, regardez que le but. Les premiers buts d'Ilicic, il y a une récupération de balles de Palomino c'est légendaire. C'est vraiment, c'est une tacle incroyable. Une défenseur qui se retrouve, je ne sais pas comment, à côté de la surface adverse, récupère un ballon et fait une passe décisive à l'attaquant. C'est extraordinaire. Les 4-0 d'Ilicic, c'est un coup franc battu. En laissant Sirigu totalement surpris de 45 mètres, 50 mètres, une chose extraordinaire, un lob magnifique. Une petite pensée pour Sirigu qui a pris 7 buts. Et malheureusement, c'est pas la première fois dans sa vie. Il avait encaissé 7 buts dans une Palerme Udinese il y a beaucoup d'années, quand Alexis Sanchez avait fait un quadruplé, imaginez. Mais c'était une poème, une symphonie, je sais pas, c'était une chef-d'œuvre, vraiment.
C'est super intéressant. Ça veut dire qu'on aura soit Valence, soit l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Après, pourquoi pas, tout est possible. Ouais. Mais ce match-là, effectivement, le 19 février prochain, on a envie de le regarder.
À fond pour voir l'Atalanta, parce que Gasperini, tout le monde a pensé que, tu vois, quand il était à l'Inter, tout le monde s'est un peu raillé parce que ça n'a pas marché l'Inter, mais c'est un putain de bon entraîneur, quoi. Franchement.
C'est simple, t'as le choix, là. Ce soir-là, le même soir, t'as Atalanta Valence à 21h. 19 février et Tottenham Leipzig.
Atalanta Valence de loin. Atalanta Valence, il n'y a pas photo.
Ah, tu vois, il y a plus Première Ligue.
Non, moi je vais voir l'Atalanta, c'est l'Ajax 2020. En tout cas, je l'espère pour eux.
Voilà, Simonet, la Juve. La Juve demain joue face à un cancre. Joue face au Napoli. 27 points d'écart entre ces deux équipes. Est-ce que la Juve doit craindre le Napoli demain?
Une catastrophe, le Napoli.
Écoute, Naples, c'est une ville spéciale dans le foot italien. C'est une ville incroyable. C'est une ville qui vit pour le football. Et cette victoire en quart de finale des Coupes d'Italie face à la Lazio qui était énormément lancée, je ne dis pas qu'il va être une révolution. Mais est-ce que ce n'est pas été l'étincelle? Qui peut apporter quelque chose de nouveau pour les matchs de demain soir? Et si demain soir, Napoli, ça n'arrivera pas parce que la Juve est supérieure, mais si demain soir, Napoli sort de ce match avec un bon résultat face à la Juve, je peux vous dire que pour l'enthousiasme qui est capable de faire vivre cette équipe, à cette ville, à ces stades et tous ensemble, est-ce que ça peut être le nouveau départ d'une saison? Oui. Après, j'y crois pas. Vraiment. Ouais. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est dans les meilleurs moments de sa aventure italienne, parce que la Juve est en train de trouver une solidité, parce que la Juve a retrouvé celui qui pour moi va être l'homme de la deuxième partie des saisons, qui est Rodrigo Betancourt, milieu de terrain qui progresse semaine après semaine. Là, il rentre après trois
c'est incroyable des suspensions. Tu sais, Simonet, quand il arrive à la Juve, il arrive parce qu'en fait, quand Tevez retourne à Boca Junior, la Juve demande d'avoir une option de rachat automatique sur Bentancur. Et je t'assure que quand il part de Boca, beaucoup de gens se disent la Juve, c'est des tarés parce que personne ne voyait. Alors, si, des qualités techniques évidentes, si, mais beau, un mental très friable, voilà, pas la carrure pour faire ce qu'il fait en Europe. Et c'est une vraie surprise de le voir à ce niveau-là.
Lui, il arrive un peu comme remplaçant, on peut dire. figure de Pjanic, c'est-à-dire celui que de jouer devant la défense. Là, il s'impose comme milieu relayeur du côté droit. Sarri l'a fait jouer parfois même numéro 10, un peu plus avancé.
Il peut.
Il prend la place de Rabiot. Rabiot, aujourd'hui, pour moi, c'est le titulaire indiscutable à gauche. On verra demain. Si demain il est encore titulaire, ce serait son 8e match titulaire d'affilée. Ça serait sensationnel pour moi.
Attention, Kurzawa arrive.
Simonet, justement, transition faite par Jonathan. Alors, on parle avec insistance, nous aussi, d'un échange de Chilio. Kurzawa, c'est quoi tes infos? Alors, Sarri a parlé aujourd'hui. Il n'a pas l'air enthousiaste à l'idée d'accueillir Kurzawa. En tout cas, il a dit, je ne le connais pas très bien.
il a fait comprendre qu'il a vu jouer à la télé. Après, il ne connaît pas l'homme, il ne connaît pas... Au-delà de ce qu'il a pu voir vraiment sur un match, il ne connaît pas les personnages, il ne connaît pas qu'est-ce que ça portait dans un groupe. Après ça, heureusement qu'il ne le connaît pas. Mais pour moi, pour parler de l'opération, pour moi ça va se faire, il n'y a pas de doute. C'est une opération qui, à niveau comptable, est beaucoup plus importante qu'à niveau sportif. À niveau sportif, les deux clubs n'ont rien à perdre à faire cet échange.
Est-ce qu'ils ont gagné quand même Est-ce que le PSG a gagné là, de Chilio?
Les deux ont gagné. Non mais les deux ont gagné. Parce que c'est deux joueurs qui sont bons, qu'il faut relancer.
Alors, les deux ont besoin de se relancer, je suis d'accord. La différence, c'est... Il n'y a même pas une énorme différence, parce que De Chilio, mais il y a beaucoup d'années, quand il était au Milan, au début de sa carrière,
très fort.
On considérait lui comme un joueur d'avenir. Après, c'est un peu perdu, mais il est toujours resté dans l'élite, un peu comme Kurzawa, qui, dans les années à Monaco, on considérait lui comme l'avenir au poste d'arrière-gauche dans l'équipe de France et pour la sélection et pour le PSG, quand il est arrivé, on considérait
beaucoup.
Les deux sont aujourd'hui dans un environnement qui n'est pas fait pour eux. Ouais. Kurzawa a besoin de sortir de Paris, probablement, et des Chilio a besoin d'aller...
C'est gagnant-gagnant,
dans un endroit plus pétillant.
Actuellement, il a besoin de sortir, Kurzawa, à Paris. Et...
Non, c'est fini, ça. C'était vrai, un moment... Franchement...
Je pense que c'est chronique, mais...
Simonet, merci. Kurzawa arrive pour être le remplaçant de Alexandro. Il n'y aura pas, énormément de pression sur lui. Et avec Sarri, qui est très, 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 très strict sur la phase défensive, il a beaucoup à prendre. Et ça peut être bon pour la Juve.
Merci beaucoup, Simonet. Excellente soirée à toi.
Ciao,
bien sûr. L'after arrive, revient dans un instant. Simonet. Jonathan Macardi, Kevin Diaz et Paulo Breitner qui est là. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
À ma droite, Jonathan Macardi, à ma gauche, Kevin Diaz. En face de moi, dans l'air, dans le ciel, sa voix va descendre sur le plateau de l'after. Paulo Breitner est avec nous.
Délivre-nous du mal, Paulo.
Bonsoir, Nico, je suis à ton extrême gauche.
Ouais, mais alors. Non, je veux pas dire. Salut, Paulo.
Bonsoir, tout le monde.
Oui. Ok, donc, pas mal de choses à arriver.
Tu voulais dire, dis-le.
Non, mais j'en ai parlé mes opinions politiques aussi, mais non, en fait, c'est pas mon rôle. Ah, mon rôle.
On
les connaît.
Je n'ai rien dit.
Paulo, le Bayern. Alors, j'allais dire étincelant, je vais être très honnête avec toi. J'ai pas eu le temps de voir le match, parce qu'on était dans le multiplex de Ligue 1, notamment. Ce Bayern s'est imposé, assez nettement, très nettement. Qu'est-ce qu'il y a à redire de ce match-là? Pas grand-chose, à part qu'on a retrouvé encore une fois, un grand Thomas Müller.
Thomas Müller, depuis que Hansi Flick a été nommé, Thomas Müller a retrouvé sa place de titulaire et c'est quasiment le meilleur joueur à chaque match du Bayern Munich. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la saison, je dis que Schalke 04 est un peu en sur-régime et d'ailleurs ce match-là, elle l'a prouvé, et notamment leur gardien Schubert qui a été très 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 plus que moyen pour ne pas dire mauvais.
Qui en a pris 5,
et surtout, c'est la meilleure performance du Bayern Munich depuis le début de la saison et de loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le relier au match du coup du Hertha Berlin, c'est ce temps deux équipes, Schalke et le Hertha Berlin, qui sont sûrement les deux équipes les plus physiques de Bundesliga et qui c'est très compact, c'est un jeu très serré, etc. Où il manque un petit peu de talent. On sait que Schalke 04 a besoin d'investissement et ils sont pour moi un peu trop haut ce classement en ce moment. En tout cas, c'est une bonne surprise. Et ils ont les deux équipes ont finalement complètement explosé au bout d'un moment, ce que n'arrive pas à faire le club de Leipzig, par exemple. C'est intéressant parce que le Bayern commence à faire comprendre à Leipzig que s'ils veulent jouer dans la cour des grands, il va falloir week-end après week-end accumuler les points. Et là, le Bayern, je vois Thomas Müller qui envoie des pics à longueur de temps sur Leipzig, il sait très bien le faire. Lewandowski, évidemment, est à très bon niveau. Thiago est enfin en train de revenir, mais peut-être parce qu'il joue en 8 aujourd'hui, alors que Kimmich est revenu en 6. Toutes ces choses-là fait qu'il y a des blessés qui reviennent aussi. Donc, très peu de Français titulaires, seulement Pavard aujourd'hui. Et encore, ça risque d'être compliqué pour
lui. Il en est où, Lucas?
Lui, c'est pas avant en février. S'il arrive en mars, okay, ça sera déjà assez extraordinaire. N'oublions pas que ça risque d'être compliqué pour Pavard dans les prochaines semaines, puisque il y a le fameux Odrio Zola, vous savez, prêté par le Real Madrid. Flick, vous avez absolument un air droit, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. J'ai le sentiment pour les Français, y compris Kingsley Coman qui est encore blessé. Aujourd'hui, les joueurs en forme, c'est Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski, etc.
Polo Pavard, oui, il a été pris pour la rotation, pour être remplaçant.
C'est un couteau suisse. Ouais. C'est un couteau suisse, mais en fait, il y a eu tellement de blessés, il s'est passé tellement de choses depuis. N'oublions pas que le Bayern Munich joue sans sa défense centrale théorique.
Ouais. Ouais,
Lucas Hernandez et Zule. Donc, il a dépanné dans tous les sens, il était là, il peut jouer un peu partout, donc c'est utile.
Ah, ça sert beaucoup à un entraîneur. Hein.
Ah, ben ça, moi, j'en suis intimement persuadé. Mais ensuite, il faut voir s'il a vraiment progressé.
Non.
Moi, j'en suis pas persuadé. Il a fait commis énormément de boulettes. Alors, bien sûr, il met quelques buts de temps en temps. Donc, ça permet de masquer beaucoup de choses. Moi, je suis pas impressionné par Pavard, mais je l'étais pas non plus à Stuttgart. Donc, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le Bayern Munich, la façon dont ils font exploser très, très rapidement des équipes qui sont supposées jouer très serrées, très compactes entre eux et qui imposent physiquement. Et là, le Bayern est au-dessus.
Je suis content, Polo, de ce que tu nous dis, de savoir que le Ballon d'Or moral 2014 revient à son niveau. Tout le monde pensait qu'il était cramé, mais je reste persuadé que ça reste un très, 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 très grand joueur.
Ah, mais Thomas Müller,
c'est mon joueur préféré en activité, mais.
Le système faisant qu'un joueur comme Thomas Müller n'aura jamais le Ballon d'Or, puisqu'on favorise les performances individuelles à longueur de temps. Je voudrais pas revenir sur le cas Ribéry en 2013, mais c'est exactement la même chose. Thomas Müller est un joueur exceptionnel. C'est quelqu'un
qui aurait dû l'avoir en 2014.
Ouais, peut-être, mais c'est l'ensemble de sa carrière, ce que je vois et ce qu'il fait, parce qu'il est quand même très atypique dans le milieu des attaquants ou 9,5, mais en fait, il peut jouer partout et surtout, là, à 30 ans, si tu veux, il n'avait pas fait grand chose depuis 2016, il est en train de revenir, vraiment intéressant ce qui se passe et surtout, juste une chose, les commentateurs en Allemagne sont en train de se dire que ce Bayern-là, donc on a beaucoup critiqué, l'oublions pas, les 6 premiers mois, notamment avec le départ forcé de Nico Kovac, par Thomas Müller notamment aussi, grâce à Thomas Müller notamment aussi, on est en train de le comparer à ce mais c'est marrant dans ce Bayern qui est en train de revenir en deuxième partie de saison là. On sent qu'il y a du Jupp Heynckes dans cette équipe là. Et comme par hasard, avec qui Hansi Flick discute souvent, c'est Jupp Heynckes, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont en train de. J'ai pas envie de dire que le Bayern pourrait être la grande surprise de la deuxième partie de saison.
Il faut qu'ils récupèrent leur défense pour la Ligue des Champions.
Alors on me dit une source bien informée une info Pavard, effectivement, on nous dit qu'il va jouer dans l'axe. C'est pour ça qu'on a recruté un arrière droit, un latéral droit au Bayern, Polo, non ? C'est pas ça ? C'est pour le remettre dans l'axe à terme.
Ouais, mais le problème, c'est que ça ferait Alaba, Pavard, c'est un peu léger, je trouve. Boateng, il est là. On verra. Non, je dis pas qu'il va pas jouer, hein, mais le problème, c'est que de toute façon, il n'est pas dans le 11 titulaire au départ. Faut pas se leurrer.
Ça, c'est sûr. Le Bayern, alors, est-ce que le Bayern va dérouler en deuxième partie de saison ? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point du RB Leipzig. Tranquillement, mais sûrement, parce que le RB a perdu 1-0. C'est loin d'être infamant, hein, sur la pelouse de l'Eintracht.
Ouais, alors c'est pas infamant, parce que Francfort, c'est quand même 250 millions de budget cette saison. C'était 200 millions réalisés la dernière. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il faut faire des comparatifs. Francfort a changé complètement de système de jeu lors des matchs retour. Ils sont passés en une défense à 4, pareil à l'image de Schalke et d'autres équipes comme Wolfsburg, beaucoup plus solide. Et en fait, en première mi-temps, Leipzig a largement dominé le match, et notamment Nkunku était sûrement le meilleur Leipziger sur place et sur le terrain, et il ne marque pas. Et finalement, on a Francfort qui revient en seconde partie en seconde mi-temps et qui finalement commence à dérouler, marque un but. Et là, tu te rends compte finalement que Leipzig, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir leur niveau qu'ils avaient l'année dernière. N'oublions pas que c'est une fin de saison, c'est une fin de série de 9 matchs à la suite avec 3 buts minimum qu'ils ont mis à leurs adversaires.
Mais il y a un qui va les aider un peu. C'est quand même Olmo.
Il faut l'intégrer. Encore une fois. Mais c'est pas un problème d'effectif, encore une fois, c'est un problème mental. Nagelsmann a fait une des déclarations après match où il était en colère comme jamais je l'ai vu. Il a fait comprendre à ses joueurs, soit vous êtes des petits joueurs, soit vous êtes des grands joueurs. Moi, je veux le titre, en gros. Et si vous êtes pas capable, on va se mettre à une table tout de suite, on va discuter, on va boire de la bière, mais on finit les 4 premiers du championnat. Si c'est que ça qui vous suffit pour votre carrière, c'est très bien. Moi, je veux le titre. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Il dit parce que dans deux journées, il y a Bayern-Leipzig. Et donc, on est vraiment dans un coach qui veut le titre et il est juste en train de dire à ses joueurs, écoutez les gars, vous devez vous bouger un petit peu plus parce que là, c'est le Bayern en face, donc on peut y aller, mais il va falloir, et donc il va éliminer au fur et à mesure, ça veut dire ça, parce que le c'est compliqué la concurrence à Leipzig. Et encore une fois, Nkunku titulaire à la place de Forsberg, Schick a été moyen, Timo Werner a tout raté alors qu'il mettait un doublé le week-end dernier. Non, on a une deuxième partie de saison qui s'annonce assez passionnante, j'en suis intimement persuadé.
Merci beaucoup.
Merci Polo.
Précision rapidement, tout à l'heure quand tu as dit à Torres, notre réalisateur, c'est l'humour, je te mets une gauche, je te l'envoie dans l'espace, c'est passé à l'antenne.
Ciao.
Voilà, il n'y a pas d'agressivité, évidemment, c'est votre jeu.
Et Toto, qui est quand même assez agressif.
Valise sur Direct Studio.
Mais Toto, il faut quand même dire que Toto est agressif.
Il y a une très bonne ambiance ici, on vous rassure. Merci Kevin.
Merci à vous.
À très vite, et puis merci Jonathan, à très
merci
vite
les
aussi.
Gars.
Bonne soirée à tous, l'after revient demain soir, bye bye.
RMC, l'after foot.